Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Ligne droite avec Richard Decaize.
Bonjour chers amis, bienvenue dans Ligne droite, la matinale de Radio Courtoisie, où nous commencerons à analyser avec Elisabeth Louvel la manière dont avec une même loi, deux justices se font jour avec des décisions aberrantes. Ensuite, avec Rudy Mana, porte-parole national ou délégué national de l'UNSA Police, nous nous poserons la question, y a-t-il un problème avec la police? Et enfin, avec Anne Coffinier de créer son école, nous regarderons la question de l'éducation nationale qui est en fait prête à attaquer les écoles libres à travers sa dernière loi sous prétexte de sauvegarder nos enfants. Xavier Aymon nous parlera de la valeur travail. Et puisqu'on parle de valeur travail, en 2014, aujourd'hui, naissait l'État islamique, fruit d'un labeur acharné et tout à fait réussi. Merci beaucoup d'être avec nous et Elisabeth, non pas Elisabeth, donc vous appelez comment, Maëlys, voilà, et Maëlys Clozel va nous parler de l'actualité.
Oui, bonjour Richard et bonjour à tous nos auditeurs. Alors, un rassemblement pour rendre hommage à Henri Nowak, poignardé par un immigré indien, est organisé ce dimanche 7 juin, place du Panthéon à Paris à 17h. Pour rappel, ce jeune Britannique de 18 ans avait été accusé faussement de racisme par son bourreau alors qu'il agonisait, chose que la police biberonnée à l'antiracisme sans détour avait automatiquement cru, en ne venant sciemment pas au secours de la victime alors qu'il disait ne plus respirer. On invite les auditeurs parisiens à s'y rendre. Nous serons sur place pour vous raconter l'événement.
Alors, il reste des gens courageux, non pas en France, mais en Belgique, comme le milliardaire Pierre-Edouard Sterrin.
Bah oui, tout à fait, Richard. Auditionné au Sénat, le fondateur de Smartbox a revendiqué hier l'ambition de son projet Périclès, diffuser les idées libérales conservatrices en France afin de favoriser à terme l'émergence d'une majorité vraiment de droite, selon ses mots. Le milliardaire installé en Belgique depuis 2012 a également assumé son statut d'exilé fiscal et affirmé avoir quitté la France sous François Hollande. Il a insisté sur la séparation entre le fonds du bien commun, dédié selon lui à la philanthropie, et Périclès, son outil d'influence intellectuelle et politique. Écoutons-le nous donner son opinion sur la remigration.
Je suis en faveur de la remigration des étrangers délinquants, sans papier ou au chômage depuis plus de 12 mois. Voilà, donc je suis à droite de l'extrême droite, puisque l'extrême droite, en tout cas celle qu'on qualifie ainsi en France, n'est pas en faveur de cet élément-là. Et pour continuer sur le sujet politique en deux secondes, parce que ce n'est pas l'objet de cette commission, je suis par contre à l'extrême gauche de l'extrême droite sur les sujets économiques. Ça ne vous aura probablement pas échappé.
C'était Pierre-Edouard Sterrin lors de son audition au Sénat.
Alors, qui se ressemble, ça semble?
Bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le procès du braquage d'une boutique SFR à Alès dans le Gard a été renvoyé à novembre pour une raison peu banale mais pas tellement surprenante. Kamel Aissaoui, l'avocat fétiche de la DZ Mafia, est actuellement en détention provisoire. Mis en examen lors d'un vaste coup de filet, c'est-à-dire une interpellation simultanée visant la DZ Mafia en mars dernier, il est soupçonné d'avoir fourni téléphone, argent liquide et divers objets à des membres de l'organisation criminelle incarcérée. Rien que ça, faute de pouvoir être défendu par son conseil, le principal suspect du braquage n'a donc pas pu être jugé cette semaine.
Et Poutine entretient le suspense sur 2036.
En effet, interrogé sur un éventuel maintien au pouvoir jusqu'en 2036, le président russe Vladimir Poutine a refusé de se projeter, estimant qu'il était trop tôt pour évoquer sa candidature en 2030. Dieu seul sait si nous aurons assez de santé, a-t-il déclaré, rappelant toutefois que la Constitution lui permet de briguer un nouveau mandat et de rester à la tête de la Russie jusqu'en 2036. Au pouvoir depuis 1999, Vladimir Poutine affirme aujourd'hui être concentré sur les grandes questions auxquelles la Russie est confrontée.
Pour le sport, vous nous parlez à nouveau, et comme par hasard, de rugby.
Oui, absolument. Selon RMC Sport, Louis Bielle-Biarré, l'ailier vedette de l'UBB et du 15 de France, aurait conditionné sa prolongation de contrat à la possibilité de participer aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France A7. À 22 ans seulement, après une saison exceptionnelle marquée par 34 essais et un nouveau titre européen avec Bordeaux Bègles, Louis Bielle-Biarré pourrait suivre les traces d'Antoine Dupont, sacré champion olympique à Paris en 2024. Un projet qui s'est duré également à la FFR, soucieuse de mettre en lumière son nouveau prodige avant les Jeux de Los Angeles.
Et on finit par la météo.
Oui, ce matin, un temps plus calme avec une alternance de nuages et d'éclaircies sur l'ensemble du pays. Un beau soleil dans le golfe du Lion. Côté température, nous pourrons relever ce matin 13 à Lille, 12 au Mans, 12 à Paris et 13 à Cherbourg. Et dans l'après-midi, pour les maximales, nous retrouverons 21 sur le Grand Est, 18 pour les Hauts-de-France et de 23 à 24 autour du golfe du Lion. Et nous célébrons aujourd'hui Saint-Constantin de Kiev, métropolite de Kiev au XIIe siècle. Soumis aux pressions et aux rivalités des princes russes, il préféra se retirer à Tchernigov plutôt que d'alimenter les divisions au sein de l'Église avant de mourir en 1059.
Merci beaucoup Maëlys.
Ligne droite.
Et bonjour Alice.
Bonjour Richard.
Alors vous nous parlez du cadmium qui nous empoisonne et de la bonne idée des écolos qui consiste à tuer les paysans.
C'est ça. Alors, donc, chers auditeurs, les députés ont adopté à 144 voix contre 22 une proposition de loi écologiste portée par Clémentine Autain et Benoît Biteau. Le texte vise à limiter fortement la teneur en cadmium dans les engrais phosphatés. Derrière les arguments de santé publique, on retrouve la même rengaine, faire payer aux paysans français les obsessions idéologiques vertes au risque de fragiliser notre souveraineté alimentaire. Mais d'abord, qu'est-ce que le cadmium ? Le cadmium est un métal lourd, naturellement présent dans les sols, mais surtout enrichi par les activités humaines, en particulier les engrais phosphatés. Selon l'ANSES, l'alimentation constitue la principale source d'exposition des Français. Une partie de la population est déjà surexposée. Ce métal est classé cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction. Il s'attaque aux reins, aux os et peut favoriser certaines maladies chroniques. On le retrouve dans les aliments du quotidien, céréales, blé, riz, pâtes, pommes de terre, viennoiseries, biscuits. La France est, d'après les données disponibles, plus imprégnée que la moyenne de nos voisins européens. C'est un vrai sujet de santé publique, personne ne le nie. Mais comme souvent, la question est comment on le traite et à quel prix. Aujourd'hui, la limite en France est de 90 mg de cadmium par kilogramme d'engrais phosphaté. C'est une dérogation au règlement européen qui fixe un plafond à 60 mg par kilogramme. Le gouvernement avait déjà proposé une trajectoire progressive et réaliste, 60 mg en 2027, 40 en 2030 et 20 mg en 2038. Les écologistes, eux, veulent accélérer brutalement. 40 mg dès 2027 et 20 mg dès 2030. Au-delà de ces seuils, les engrais seraient tout simplement interdits sur le territoire. C'est une surtransposition française classique. On en fait plus que les autres pays européens et on le fait plus vite. La très grande majorité des engrais phosphatés utilisés en France sont importés principalement du Maroc et d'Afrique du Nord. Ces phosphates contiennent naturellement du cadmium. Pour descendre rapidement à 20 ou 40 mg, il va falloir traiter les engrais, ce qui coûte cher, ou changer de fournisseur. Résultat attendu, une hausse des prix des engrais, donc hausse du coût de production pour les agriculteurs. Or, les exploitations sont déjà sous tension avec l'inflation, les normes environnementales multiples et la concurrence internationale. La coordination rurale parle clairement de surtransposition et demande que la France s'aligne simplement sur la moyenne européenne de 60 mg. La FNSEA, de son côté, reconnaît l'enjeu de santé mais insiste, il faut que les fournisseurs s'adaptent sans étrangler les paysans. Si on va trop vite, on risque plusieurs effets concrets. Perte de compétitivité de nos agriculteurs face aux importations venues de pays qui restent à 60 mg, augmentation des prix alimentaires pour le consommateur français, risque de dépendance, on finit par importer plus de blé ou de viande produits ailleurs, potentiellement avec des standards moins exigeants. C'est exactement ce que le ministre Mathieu Lefebvre a souligné, le rythme voté n'est pas réaliste et menace notre souveraineté alimentaire. Il a raison. On ne peut pas demander à l'agriculture française de porter seule le poids de la transition écologique en 3 ou 4 ans, pendant que le reste de l'Europe avance plus lentement. Oui, il faut réduire l'exposition au cadmium, où une baisse progressive de 20 mg à long terme peut se justifier, mais l'écologie punitive qui consiste à tout accélérer sans tenir compte des réalités économiques et industrielles, c'est contre-productif. On punit encore une fois l'agriculteur français, on augmente ses charges, on fait monter les prix dans les assiettes et on met en danger des filières entières. Le texte aujourd'hui doit passer au Sénat. Espérons qu'ils remettent un peu de raison et de pragmatisme dans ce débat. Parce que protéger la santé des Français ne doit pas se faire en sacrifiant notre capacité à nous nourrir nous-mêmes.
Merci beaucoup, Alice.
Ligne droite. Debout les Français.
Debout les Français avec Elisabeth Louvel, directrice générale et porte-parole de l'Observatoire des décisions de justice. Bonjour madame.
Bonjour monsieur. Alors, merci pour votre invitation, bonjour à tous.
Merci à vous d'être là si tôt matin. Vous avez monté l'Observatoire de la justice il y a un an ou deux, si je ne m'abuse.
Oui, un an. Nous avons tout juste un an, là, au mois de juin.
Voilà, un an. Et vous surveillez avec passion et avec science la manière dont toutes les décisions de justice sont rendues. Et une chose vous a surpris il y a peu de temps, c'est la manière dont les juges bretons ont décidé d'expulser les dealers des logements sociaux qu'ils occupent, alors que les juges marseillais, eux, ont décidé de protéger d'autres dealers. Donc, pour le même fait, il y a deux justices.
Oui, absolument. Pour une même loi, il y a deux justices. Je pense que vous connaissez tous, et vos auditeurs également, la célèbre citation extraite de la fable de Jean de La Fontaine, et non d'une chanson Michel Sardou, qui commence par « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ». Eh bien, je l'ai quelque peu adapté pour l'affaire qui nous concerne, et je l'ai commencé par « Selon que vous serez breton ou marseillais ». Parce qu'en effet, le 5 mai 2026, le tribunal judiciaire de Rennes a décidé d'expulser une famille de son logement social au motif que le fils aîné, qui a 17 ans seulement, était vraiment impliqué jusqu'au cou dans le trafic de stupéfiants. On a retrouvé du cannabis au domicile familial, il y a plusieurs interpellations, du matériel de conditionnement, donc il avait toute la panoplie du parfait dealer et en plus un point de deal actif en bas de l'immeuble. Donc, j'ai été agréablement surprise de voir que le tribunal de Rennes avait décidé d'expulser cette famille en appliquant la loi assez récente du 14 juin 2025. J'ouvre une petite parenthèse pour le politique de cette mesure qui était vraiment, il y a 3-4 ans à peine, connue comme étant une mesure extrémiste, parce que portée par le Rassemblement National, parce que portée par Reconquête. Donc, une mesure stigmatisante. Vous étiez vraiment très, très méchant quand vous en parliez. Et bien, finalement, reprise par les LR quelques mois plus tard, puis carrément par les macronistes qui l'ont intégrée dans une loi, et bien, ce qui était inenvisageable il y a à peine 3-4 ans est devenu une mesure consensuelle à droite comme au centre. Donc, c'est une petite note positive, je pense que c'est important de commencer la journée avec une petite note positive. Ça veut dire que, par la pression de l'opinion, par la réalité de terrain, cette mesure est devenue consensuelle. Mais c'était sans compter sur nos juges français, puisque le 19 mai 2026, donc 15 jours plus tard, je découvre par contre que le tribunal judiciaire de Marseille a décidé, lui, de refuser d'expulser des familles de délinquants de leur logement social dans la célèbre cité de Castellane. Je pense qu'elle est tristement rendue populaire par le trafic de drogue qui règne. Donc, même situation, même problème de trafic de drogue, même loi qui aurait dû être appliquée, mais les juges en ont décidé autrement. Alors, ils ont estimé que les condamnations pénales des enfants n'établissaient pas suffisamment le trouble à l'usage paisible de l'immeuble et que la tranquillité n'était pas forcément dérangée par les trafics parce que ça ne se produisait pas avec certitude en bas de l'immeuble. Enfin, voilà, ce sont des circonvolutions judiciaires dont on a l'habitude.
Pardonnez-moi, Elisabeth Louvel. Donc, pour résumer, dire tant qu'on ne prouve pas au juge par A plus B avec des photos en gros plan d'une personne en train de trafiquer pile au pied de son immeuble, il considère que le fait que des trafiquants soient installés dans une habitation à loyer modéré gérée par l'État ou par la municipalité ne constitue pas un trouble à l'ordre public.
Oui, parfaitement. C'est l'interprétation, je dirais, personnelle et subjective de ces juges marseillais. Et pourtant, Dieu sait si à Marseille, il aurait fallu faire des exemples en premier, puisque c'est forcément une ville qui se mexicanise, comme on l'a vu. Donc, finalement, ces juges ont estimé que l'ordre public n'était pas forcément très touché par tout ça. Donc, en effet, c'est scandaleux parce que C'est évidemment un pouvoir que s'est donné, que se sont donné les juges marseillais, qui se substituent au pouvoir législatif, qui lui a cette loi. Ce sont les peuples qui votent les lois, et le juge a décidé de se substituer à cela en décidant, en la vidant de sa substance, en fait. Donc c'est un phénomène que l'on voit assez couramment et qui porte atteinte quand même à trois principes fondamentaux dans notre démocratie. Rapidement, il porte atteinte à la sécurité juridique. La sécurité juridique, le fait qu'un citoyen...
Elisabeth Touvel, on vous entend horriblement mal, pardonnez-moi. Il y a peut-être un problème de connexion Internet. Ah non, c'est le micro.
J'ai la même connexion que...
Non, c'est le micro qui est défectueux. Voilà,
c'est le micro.
Voilà.
Alors, bon. Je ne sais pas comment changer ça parce que j'en ai pas...
Ne bougez plus. Voilà, figez-vous et continuez à parler.
Oui, je disais que cela portait atteinte à trois principes fondamentaux de notre démocratie, notamment la sécurité juridique. Puisque quand vous êtes un citoyen français, on exige de vous que vous connaissiez à peu près les lois de votre pays et surtout les conséquences que vos actes impliquent. Or là, si les conséquences sont différentes d'un département à l'autre, vous avouerez que vous n'êtes plus en sécurité juridique, on va dire.
Dans la décision du 19 mai 2026, en fait, c'était le préfet des Bouches-du-Rhône qui avait demandé à la justice de procéder à l'expulsion, parce que l'esprit de la loi ne consiste pas à dire on va chasser de leurs logements sociaux tous ceux qui ont un point de deal en bas de leur immeuble, c'est on va chasser des logements sociaux ceux dont le comportement est évidemment en rupture avec la loi, et donc le logement social est une espèce de gratification donnée par un État généreux ou une municipalité généreuse à des gens dans le besoin. Si ces gens-là en fait ne sont pas de bonne vie et de bonnes mœurs, il n'y a aucune raison que la municipalité ou l'État les fasse profiter de leur libéralité. Donc c'est pas l'existence d'un point de deal identifié précisément sur le palier ou à la porte de sortie qui est en soi l'élément déclencheur.
Non, absolument. L'objectif de la loi de juin 2025, c'était vraiment de lutter contre le fléau du narcotrafic. Et dans cet esprit-là, en effet, le logement social n'est pas censé être une base pour le trafiquant ou la base arrière de tout un trafic, de toute une cité. Et le droit au logement n'est pas considéré comme un droit absolu. Au logement social n'est pas un droit absolu, c'est un droit conditionnel. Et la condition, évidemment, c'est de ne pas porter atteinte à la tranquillité publique ou à l'ordre public, en l'occurrence. Et c'est une faculté qui a été donnée au préfet, donc à l'État, de se substituer au bailleur pour demander la résiliation de ce bail auprès du juge des contentieux. Et donc, en fait, toutes les initiatives qui ne sont pas très nombreuses, j'avais noté les chiffres, il y a à peine 10% de résiliations qui sont effectives, devant les tribunaux. C'est le préfet, donc, qui se substitue au bailleur. Donc l'État, et donc ce sont les juges finalement qui bloquent la plupart du temps ces résiliations qui sont tout à fait légales.
Alors les juges les bloquent, et même pire si j'ose dire, là dans cette décision du 19 mai 2026, visiblement l'État n'a pas fait appel de la décision.
Pour l'instant non, à ce jour on n'a pas d'informations qui nous indiquent que le préfet aurait fait appel. Il lui reste, je crois, encore quelques jours. Il a juste dit qu'il attendait les éléments de les motivations du jugement. Mais en effet, pour l'instant, il n'y a pas d'appel.
Non, sauf que les motivations, d'une certaine manière, il les connaît déjà, puisque vous-même, vous les connaissez. Donc, il attend une espèce de notification officielle qui, en fait, est totalement inutile. Mais bon, on verra bien. Mais vous insistiez dans l'article que vous avez fait paraître sur cette affaire, sur la manière dont ce n'est pas juste les juges marseillais. C'est que, par exemple, le Conseil constitutionnel a censuré une disposition du Code pénal sur la confiscation obligatoire des biens issus du trafic. Depuis 2012, on pouvait confisquer les biens, c'est-à-dire l'État avait le droit de rentrer, avait le droit de dire que le portable de ce jeune trafiquant, l'ensemble des biens dans sa chambre, et pourquoi pas l'ensemble des biens de la famille, pourvu qu'on puisse établir qu'ils ont été achetés avec l'argent de la drogue, peuvent être confisqués. Et bien là aussi, donc la loi décide, plutôt le Conseil constitutionnel a décidé que la loi était trop sévère et qu'on n'allait pas priver de quelqu'un de son poste de télévision s'il est trafiquant de drogue.
Oui, absolument. C'est assez récent. C'était en mars 2026 où le Conseil constitutionnel a censuré cette mesure qui existait, comme vous dites, depuis 2012 dans le Code pénal. Donc, et c'est évidemment toujours avec le motif de l'individualisation de la peine. On ne peut pas justement être trop sévère. Il faut voir au cas par cas. Il faut regarder le passif de la personne. Et ça, c'est un gros. C'est le grand mal de la justice. Hein, c'est cette culture de l'excuse, d'individualisation de la peine, qui, comme on l'a vu pour les émeutes de samedi soir, provoque finalement une impunité collective, parce qu'à force d'individualiser chaque peine, elles sont réduites, ce ne sont pas les peines qui sont encourues, qui sont prononcées, et on arrive à une désobéissance judiciaire en plus d'une impunité collective.
Et vous l'avez effectivement parfaitement exprimé, on se retrouve avec 900 interpellations, dont 87 mineurs, le plus jeune à 14 ans, et les peines de prison, c'est 6 à 12 mois de sursis aménagés, les amendes c'est de 300 à 500 euros, des travaux d'intérêt général, des stages de citoyenneté, des mesures éducatives. En fait, personne, y compris ceux qui ont attaqué les policiers, ne se retrouve à faire de la prison ferme.
Non, alors j'ai lu quand même dernièrement que sur plus de 500 gardes à vue, parce qu'il y en a à peu près 300-400 qui sont encore en cours, parce que pour des actes plus graves, on nous dit, on doit attendre plus longtemps. Il y a eu 3 condamnations à de la prison ferme, 3 seulement.
3.
Voilà, c'est la dernière mise à jour.
Avec mandat de dépôt?
Ah oui, prison ferme, mandat de dépôt.
Voilà. Donc là, ça veut dire que la personne est véritablement allée en prison sans que le juge d'application des peines n'ait eu le temps de considérer qu'il fallait revoir le jugement à la baisse.
Voilà, mais il n'y en a eu que 3.
Sur cette affaire des Bretons et des Marseillais, est-ce qu'on peut expliquer la décision des juges marseillais par le fait que la ville étant déjà complètement gangrenée par la drogue, les juges se sont eux-mêmes habitués, si j'ose dire, à cette présence de la drogue, alors que les Bretons ne sont pas encore au milieu d'une cité dévorée par le narcotrafic? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que c'est territorial? Est-ce que c'est la bonne volonté de chaque juge? Est-ce que c'est le sentiment de chaque juge qui prévaut?
Alors justement, c'est tout le problème. C'est comme vous dites, c'est le sentiment de chaque juge qui prévaut, parce que c'est justement de là l'atteinte à la séparation des pouvoirs, si je puis dire. Vous avez les représentants du peuple qui votent une loi et les juges, eux, qui l'analysent ou l'avis de cette substance dans chaque tribunal. Donc c'est même pas, je pense, un relativisme par rapport au trafic de stupéfiants. C'est vraiment cette obsession d'individualisation de la peine qui fait que on voit toutes ces mesures laxistes ou ces condamnations. La nation qui n'en sont pas, je pense vraiment que le trafic de drogue est considéré comme important pour chaque magistrat, mais encore une fois, voilà, il faut voir la personnalité du délinquant, et c'est tout le problème de la justice française. Il va falloir, je pense, dans les mesures effectuées pour justement éviter cette différence énorme entre chaque tribunal, il va falloir soit que la Cour de cassation vienne unifier cette loi dans tous les tribunaux, soit qu'en outre, le législateur encadre davantage et souligne vraiment tous les détails que doit comporter cette loi. Peut-être qu'il y avait justement trop d'espace pour l'interprétation subjective du juge.
Trop d'espace et donc évidemment la porte ouverte au fait que ce juge puisse considérer voilà, qu'un trafiquant a parfaitement le droit d'être abrité par l'État ou par la municipalité dans un logement social.
Absolument.
Voilà, donc le logement social sert de base arrière au trafic de drogue grâce au juge marseillais. Merci beaucoup Elisabeth Louvel d'avoir dénoncé cette justice, non pas à deux poids deux mesures, mais à deux territoires, et donc une même loi produit deux effets différents. Dans un cas, les citoyens pâtissent. Dans l'autre, ils sont sauvegardés à peu près. Merci beaucoup et à très bientôt sur Radio Courtoisie.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Richard de Sèze.
Chers amis, il est 7h24. Là, tout à l'heure, à 8h10, Alexis Poulain viendra nous rejoindre pour parler avec Runi Bana de UNSA Police, avec qui nous entamons tout de suite une discussion sur « Y a-t-il un problème avec la police ?»
Ligne droite. Le grand entretien.
Alors, bonjour Rudy Mana.
Bonjour.
Voilà, parfait. L'image est à l'endroit. Vous êtes donc le délégué national de UNSA Police.
Oui.
Alors, présentez-nous un peu ce syndicat.
Ben, UNSA Police, c'est le troisième syndicat des gradés et gardiens. C'est un syndicat qui est en progression constante depuis 4 ans maintenant. Les élections professionnelles arrivent en décembre 2026 et on compte bien s'approcher de la deuxième place. C'est un syndicat qui est totalement apolitique, qui est écouté par les autorités, par les politiques et surtout qui est apprécié par les gradés et gardiens qui sont sur le terrain, comme moi d'ailleurs, puisque je suis aussi en partie sur le terrain encore, et on est très fiers de ça.
Alors, vous êtes sur le terrain. À propos de terrain, le PSG donc, a gagné. À plus de 1000 km de là, la France explose. Et les Français, c'est un sondage qui est paru, un sondage Odoxa pour le Figaro Blackbone, si je ne m'abuse, est paru hier, qui nous dit que 70% des Français trouvent que les forces de l'ordre ne sont pas assez répressives. Que pensez-vous du sentiment des Français ?
Alors le sentiment, je le comprends et je le partage. Le souci, c'est que vous savez que on est en France, c'est une véritable démocratie, il y a des lois et les policiers, s'ils sont répressifs et qu'il s'avère qu'ils usent de la violence légitime, je parle bien de légitime, dont ils ont le droit d'user et que derrière il y a des vidéos qui sont sorties de leur contexte et qui apparaissent sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, les médias s'emparent de ces vidéos et ensuite ils jettent l'opprobre sur les policiers. Et souvent, malheureusement, l'opinion publique peut se retourner. Donc moi, j'entends qu'il faudrait qu'on agisse différemment, sauf que lorsque nous sommes soumis à des lois de la République qui sont votées par des députés eux-mêmes élus par le peuple, vous comprenez que quand vous êtes policier, vous êtes quand même dans une situation un peu inconfortable. Donc les policiers, ils agissent en fonction des lois, parce qu'ils n'ont pas envie derrière d'être placés en garde à vue, d'être entendus par les GPN, et éventuellement d'avoir des ouvertures d'instruction contre eux pour des violences soi-disant illégitimes.
Alors, vous avez raison de dénoncer l'IGPN, en tout cas de dire que vous n'avez pas envie que l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, vous tombe sur le dos. Néanmoins, on a l'impression parfois d'un certain deux poids, deux mesures. Là, par exemple, il y a certains préfets expliquent que ça ne sert à rien d'aller provoquer dans certains quartiers les habitants. Pendant le Covid, voilà, des consignes avaient été données à la police et à la gendarmerie pour patrouiller partout, sauf dans certains quartiers, ce qui fait dire que le petit couple de septuagénaire dans un village de Basse-Normandie se tapait 300 euros d'amende parce qu'il avait dépassé de 2,50 mètres la zone, le droit de se promener, ou qui s'était arrêté, c'est une anecdote authentique, pour discuter avec un voisin par-dessus la haie, et que normalement la déambulation devait être active et on n'avait pas le droit de stationner, et donc crac, ça y est, 300 euros d'amende. Mais en revanche, les dealers pouvaient tranquillement dans les cités, continuer à festoyer et à se rencontrer, et pas un policier n'était là pour constater la manière dont les gestes barrières n'étaient pas respectés, dont la distanciation sociale, évidemment, n'existait pas. Donc ce deux poids, deux mesures, c'est pas simplement la loi, c'est aussi les consignes qui vous sont données.
Alors, pas tout à fait. Vous savez, là, vous me racontez des discussions de comptoir, je vous crois.
Pour ce qui est de la condamnation des deux petits vieux, c'est documenté. Non, et pour ce qui est du reste...
oui. Non, mais j'entends bien. Mais ce que je veux dire, c'est autour d'un comptoir qu'on discute d'une affaire comme ça. Je ne vous dis pas qu'elle n'est pas vraie. Je vous dis que c'est très vrai, puisque vous la racontez. J'ai aucune raison de ne pas vous croire. Ce que je veux vous expliquer, c'est que quand on vous parlait de cette manière, vous accordez un petit peu d'égard aux policiers. Parce que moi, je vous assure que quand vous êtes sur la voie publique, et moi j'y suis, on va partout et la police essaye de verbaliser tous les gens qui sont en dehors de la loi. Alors là, vous parlez d'une affaire lorsqu'il y avait le Covid. Moi, je vais vous parler du narcotrafic qu'on a à Marseille, du narcotrafic qu'on a dans toutes les villes de France, et du travail des policiers de terrain qui prennent des risques inconsidérés pour arrêter les narcotrafiquants, parfois au péril de leur corps, puisqu'ils sont souvent blessés dans ces interpellations. Donc ça, c'est des mauvais procès d'intention. Ce que je vais vous expliquer, c'est que la police, elle ne choisit pas c'est les personnes qu'elle va interpeller ou qu'elle va verbaliser. Dès qu'il y a une infraction, logiquement, elle doit faire cesser l'infraction et éventuellement verbaliser les gens. Alors effectivement, parfois, ben, vous avez des policiers qui font un peu de zèle ou des gendarmes qui font un peu de zèle et qui verbalisent des gens qui pourraient pour le commun des mortels, ne pas l'être. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est que les policiers, les gendarmes, quand il y a des individus dangereux interpellés, ben, c'est eux qui le font. Quand il y a des narcotrafiquants interpellés, ben, c'est eux qui le font. Quand il faut aller dans des cités pour démanteler des réseaux, ben, c'est eux qui le font. Et puis, nous, vous savez, dans les cités, on y va tout le temps. Pourquoi ? On y va tout le temps, justement, parce qu'il y a des gens qui, eux, veulent vivre paisiblement et qui, eux, veulent vivre honnêtement. Et malheureusement, il y a des réseaux de trafic de stupes qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, hein. Faut pas se voiler la face, et qui sème la terreur sur ces gens-là. Et si la police ou les gendarmes ne rentraient pas dans ces endroits-là pour rétablir un semblant de paix républicaine, ben je vous assure que la France, elle serait dans un bien pire état que celui que nous voyons aujourd'hui.
Alors, en fait, Rudy Mana, vous avez évidemment raison. Ce que je mettais en cause, ce n'était pas la manière dont les policiers interviennent, c'était les instructions qu'on leur donne. Autrement dit, ouais, ce qui est un peu différent, puisque
régulièrement... Je vous coupe parce que, franchement, je vous le dis, il faut arrêter d'affabuler sur les instructions qu'on nous donne. Moi, je suis un policier républicain, je sais ce que j'ai à faire sur la voie publique. Si on me dit de faire quelque chose que je considère pas juste, je vais pas le faire. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Si on me dit de verbaliser les petits chiens parce que ils font les besoins sur la voie publique et que c'est pas possible, si j'ai pas envie de le faire, je ne vais pas le faire. Personne m'oblige à faire sur la voie publique. Je suis seul maître sur la voie publique. Je fais tout ce qui me semble bon et dans la légalité évidemment des lois régies par la République pour que la société fonctionne un petit peu mieux à mon modeste niveau. C'est tout simplement ça. Vous savez, les instructions, c'est vrai que parfois on en a vu passer, parfois on nous a dit il faut éviter de rentrer dans certains endroits. Chaque policier fait ce qu'il veut et l'analyse à sa manière. Alors effectivement, parfois on nous demande de pas aller dans certains endroits parce qu'il y a des surveillances mises en place par d'autres services de police pour éventuellement démanteler les réseaux. Ça aussi, c'est arrivé. Mais vous savez, moi, c'est pas parce qu'on m'a dit il faut pas aller là, parce que ça peut créer des dissensions, que je ne vais pas y aller s'il y a, par exemple, une agression. Je vous le dis de manière très claire. Bien évidemment qu'on va y aller. Donc, moi, je relativise vachement ce genre de choses parce que le policier, que ce soit un homme ou une femme, il a une capacité intellectuellement de faire ce que bon lui semble et ce que bon semble pour la population.
Merci d'exprimer le fait qu'il y a des policiers qui évidemment en prennent et en laissent, si j'ose dire, par rapport aux instructions. Ces instructions existent néanmoins. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, et les autres ministres de l'Intérieur avant lui et les autres préfets de police de Paris ou d'ailleurs ont expliqué qu'ils avaient donné pour instruction de faire ceci, cela, d'être plus ou moins coulant. Autrement dit, on sent qu'il y a une interprétation qui est faite par le sommet de l'État, de la loi, en acceptant une plus ou moins grande latitude, surtout quand il s'agit de mouvements de foule, quand il s'agit de manifestations. Et on a l'impression que de temps en temps, quand un paysan n'a pas envie que ses vaches soient euthanasiées ou quand un gilet jaune a envie de défiler sur les Champs-Élysées, la manière dont les forces de l'ordre interviennent n'est pas exactement la même que pour d'autres manifestations ou d'autres protestations. Mais une fois plus, c'est une question que je pose et non pas un jugement que je porte.
Non, mais je vous réponds par la négative à cette question que vous posez. Vous savez, effectivement, parfois ça peut être choquant, et moi le premier, hein, vous savez, j'ai eu d'autres responsabilités syndicales dans d'autres syndicats, j'ai souvent été amené à m'exprimer sur la situation, par exemple, des agriculteurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un policier, quand il a en face un agriculteur, je vous dis la vérité, il n'a pas forcément envie de rentrer en conflit avec eux. Parce qu'on a conscience que les agriculteurs sont des gens qui travaillent, ce sont les gens qui nous nourrissent, qui nourrissent le pays, et que quand ils viennent à Paris pour bloquer, pour gueuler, à juste titre, très 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 souvent, ben, ils ne le font pas parce qu'ils ont envie de le faire, parce que ce qu'ils ont envie de faire, c'est travailler dans leur terre, sur leur terre, travailler dans leur champ, pour continuer à vivre, souvent avec des revenus très précaires. Alors si, dans l'idée, je vous le dis de manière très claire, ça ne ravit pas les policiers et les gendarmes, de se mettre en barrage vis-à-vis des agriculteurs. Après, parfois, il y a des obligations. Les obligations sont que vous ne pouvez pas bloquer toute une ville, comme Paris, par exemple, parce qu'il y a des blocages faits par les agriculteurs et vous devez amener des limites. Vous devez, c'est obligatoire. Sinon, c'est tout un bassin parisien, par exemple, presque 1 million de personnes pour Paris et 10 millions pour le bassin, qui serait totalement bloqué. Donc ça, le rôle des policiers, c'est de le faire. Mais franchement, je vous le dis encore une fois, par quelques exceptions et quelques personnes qui font du zèle, je vous assure que c'est très très rare qu'on ait des altercations extrêmement violentes avec les agriculteurs, surtout ces dernières années. Nous, on a conscience de ce qu'ils font, on a conscience du travail qu'ils font tout au long de l'année, on a conscience du peu de revenus qu'ils ont de leur travail. Et vous savez, on est un peu dans la même galère, les policiers et les agriculteurs, souvent. Et il nous arrive même souvent de déjeuner avec eux, de partager un bout de saucisson avec eux, de boire un café ou même de boire un petit verre de vin, vous voyez, avec eux, quand on est sur des rassemblements ou des manifestations, parce que c'est la France d'en bas. La police et les agriculteurs, nous sommes la France d'en bas. Nous sommes des ouvriers de la République. Et on comprend très très bien les difficultés des uns et des autres. Et franchement, quand on peut éviter un quelconque affrontement, je vous assure que tous les hommes et les femmes qui sont face à nous, et tous les hommes et les femmes policiers que les agriculteurs ont face à eux, je peux vous assurer qu'ils les respectent.
Alors, une fois plus, merci de ce témoignage de solidarité. J'aime beaucoup cette expression des ouvriers de la République et du fait que vous vous sentez solidaire de tous ceux qui sont en bas. Bon, on a l'impression qu'en haut, il y a malgré tout une vision un peu différente des choses et que de temps en temps, un agriculteur donc récalcitrant, on n'hésite pas à envoyer des engins blindés et des hélicoptères avec des gaz lacrymogènes, alors que les dealers, pour le moment, je n'ai pas vu d'opération de police avec engins blindés autour d'une cité qui est gangrenée par le trafic de drogue.
Alors, vous devez venir à Marseille plus régulièrement parce que je vous assure que, alors pas forcément des engins blindés, effectivement, mais les opérations de trafic de drogue que nous faisons à Marseille, je peux vous assurer que c'est pas des opérations qui font rien. Il y a des drones qui circulent au-dessus des cités, il y a des centaines de policiers qui viennent en nombre. Non, franchement, là-dessus, alors effectivement, l'image du blindé que vous parlez, c'est une image qu'on a pu voir, c'est le blindé des gendarmes d'ailleurs, le fameux Centaure qu'on a pu voir lorsqu'il y a eu des rassemblements d'agriculteurs, et qui effectivement, pour l'opinion publique, c'est extrêmement choquant de voir un blindé de la gendarmerie face à des tracteurs d'agriculteurs. Effectivement, dans l'image, c'est extrêmement choquant, mais je vous rassure, le blindé n'a pas foncé sur le tracteur des agriculteurs, et le tracteur des agriculteurs n'a pas foncé non plus sur le Centaure des gendarmes. Ça s'est plutôt bien passé à la fin, mais je comprends que dans l'image et dans l'esprit de tout un chacun et du peuple de France, c'est extrêmement choquant. Mais ce que je veux assurer à vos auditeurs, c'est que je vous assure, quand l'on fait des opérations anti-stup, alors moi, la ville que je connais le mieux, c'est Marseille, puisque j'y vis depuis 23 ans et j'y travaille depuis 23 ans. Je vous assure qu'on n'y va pas en rigolant. Ça, c'est moins filmé par les caméras, ça apparaît moins sur les médias nationaux, mais je vous assure qu'on n'y va pas en rigolant et qu'on emploie tous les moyens nécessaires pour interpeller les cibles qu'on nous a désignées au départ et pour saisir le maximum de produits stupéfiants ou d'argent lors de ces opérations.
Alors, la manière dont la police agit, c'est une chose, et il y a ce qui se passe après. On a l'impression que dans la manière dont la police vit son métier, vit son action, il y a un certain ressentiment vis-à-vis de la justice. C'est-à-dire, vous nous parlez d'interpellations réussies, vous nous parlez de saisie de drogue, vous nous parlez de saisie d'argent. Juste avant, avec l'Observatoire des décisions de la justice, nous évoquions le cas d'un juge marseillais qui avait décidé qu'un trafiquant de drogue pouvait rester dans le logement social qu'il occupait, car on n'avait pas suffisamment établi le fait qu'il y avait des troubles de voisinage. Donc cette personne est dans un HLM, elle est ouvertement un trafiquant de drogue, et néanmoins, alors que la loi votée en 2025 permettrait de l'expulser, le juge décide de l'y laisser. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, de la part de la police, malgré tout, un certain ressentiment vis-à-vis de ceux qui font que le travail n'est pas transformé?
Oui, là, je suis en total accord avec ce que vous venez d'exposer. Effectivement, vous savez, on a pu le voir là sur les jugements qui ont eu lieu suite au saccage de Paris après le match de Paris Saint-Germain. Effectivement, parfois, on est sur des affaires, on se rend compte que la sanction n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer de l'investissement qu'ont mis les policiers de terrain, mais aussi les policiers d'investigation, qui parfois travaillent pendant 6 mois ou 8 mois sur des objectifs sans relâche pour interpeller des individus. Et malheureusement, ces individus, on se rend compte qu'à la fin, ils ont été relâchés parce qu'il y a un vice de procédure. Là aussi, on pourra en parler. En fait, on a une procédure judiciaire qui est d'une complexité absolue. La police française, malheureusement, on est incapable, je dis bien incapable, alors qu'on est en 2026, 7e puissance mondiale, on est incapable d'utiliser l'intelligence artificielle pour aider les policiers, au moins dans l'établissement des procédures, dans le montage des procédures, pour éviter qu'il y ait des vices de procédure. Parce que vous savez, parfois, vous avez des procédures qui ont 1000 pages, 1200 pages. Imaginez quand vous avez tapé 700 PV, 700 procès-verbaux pour une affaire, il ne faut pas qu'il y ait une erreur sur une virgule. Parce que s'il y a une erreur sur une virgule, ces individus, ces trafiquants de stupes, eux embauchent des avocats à coups de dizaines de milliers d'euros parce qu'ils prennent les avocats les plus chers du marché. Et croyez bien que ces avocats, eux, ils utilisent l'intelligence artificielle pour savoir s'il y a un vice de procédure dans la procédure de 1200 pages qu'on a effectuée. Mais nous, en sens inverse, on n'est pas capable de le faire. Alors, vous savez, moi, ça fait 31 ans que je suis dans la police. Hein. J'ai l'impression qu'on a évolué, mais à un pas tellement, tellement lent qu'on est en retard, mais conséquent, sur ces trafiquants de stupes qui, eux, ont un argent démesuré, parce que le nerf de la guerre, c'est bien cela. Vous savez, les gros trafiquants de stupes aujourd'hui, et on peut en parler parce qu'à Marseille, il y a 2 gros procès qui ont eu lieu, le procès de la DZ Mafia il y a environ 15 jours, un peu plus un mois, et le procès du clan Yoda dont le délibéré sont aujourd'hui. Donc, si vous voulez, ils ont des sanctions lourdes, mais ces gens ont amassé des dizaines de millions d'euros, voire des centaines de millions d'euros. Alors, vous imaginez tous les moyens qu'ils ont pour établir leur défense, pour se mettre à l'abri, pour mettre à l'abri leurs proches et leurs familles. Et face à ça, on a des policiers à qui on demande de faire des procédures de plus en plus complexes, avec de moins en moins de personnel parfois, et sans l'aide de l'intelligence artificielle qui, qu'on le veuille ou non, qui est la révolution de ces 10, 20, 30, 40 prochaines années. Bon, écoutez, moi, je crois que la police doit encore se moderniser. La police doit évoluer aussi vite que ces trafiquants de stupes. Et si on veut que ce pays, un jour, avance en toute sécurité, il va falloir moderniser tous ces services de police, tous ces services de gendarmerie, tous ces services de justice. Hein, parce que vous savez, eux aussi travaillent avec des moyens d'après-guerre. Hein, et ça, c'est plus possible face à la délinquance à laquelle on est confronté aujourd'hui. Parce que la délinquance de 1950, je vous assure que c'est pas la même que la délinquance de 2026. Hein. Elle est beaucoup plus violente, beaucoup plus jeune, parce qu'il y a de plus en plus de mineurs. Et face à ça, on a une ordonnance de 45 qui a été révisée par Dupond-Moretti 2021, mais je vous dis la vérité, ça ne servit à rien ce qu'il a fait parce que ça a fait très très peu évoluer cette ordonnance de 45. Donc en fait, on
C'était
demande
c'était
de.
sur le jugement des mineurs, c'est ça?
Ouais, sur la délinquance des mineurs. On est particulièrement touché en France par la délinquance des mineurs. Il faut arrêter aussi de se voiler la face. C'est plus possible. On a de plus en plus de mineurs qui sont déscolarisés, d'ailleurs, ça on n'en parle pas souvent. Et on a de plus en plus de mineurs qui commettent des actes de délit, voire des crimes. Puisqu'on a eu beaucoup d'affaires, notamment à Marseille, sur des crimes perpétrés par les narcotrafiquants, où ils utilisent des mineurs. Et face à ça, en fait, on donne un médicament de 1945 avec l'ordonnance de 1945. Non, mais c'est comme si on soignait un cancer avec un doliprane. Bon, c'est très compliqué à lutter efficacement quand on a un doliprane contre un cancer. Bon, il faut que la police aussi et la justice se modernisent, évoluent dans le bon sens pour qu'on puisse lutter un petit peu plus à armes égales contre ces trafiquants. Vous savez, moi, en bon Marseillais, je fais souvent le comparatif avec le foot. Et je dis que la police, elle joue en Ligue 2 aujourd'hui, en deuxième division, et les trafiquants de stupes, eux, ils jouent la Ligue des Champions. Donc, c'est compliqué de gagner un match quand vous êtes en Ligue 2 contre une équipe de Ligue des Champions. Ça arrive, mais ça arrive une fois sur 1000. Donc là, on doit vraiment mettre des moyens pour que nous aussi, on puisse monter en Ligue des Champions, on puisse accéder à la Ligue des Champions et jouer à armes égales avec ces délinquants.
Alors, la procédure est de plus en plus complexe. Les juges ont tendance à être laxistes d'une certaine manière. Les délinquants sont mieux armés à tous les sens du terme, qu'il s'agisse d'un armement réel ou qu'il s'agisse d'un appui juridique. Les locaux sont vétustes, les logiciels sont inadaptés. Et à l'arrivée, est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu abandonné par l'État ?
Alors, c'est difficile à dire parce qu'il y a quand même quelques évolutions. Moi, je suis rentré dans une police il y a 31 ans. Je peux vous assurer qu'on était à l'âge de pierre. Donc, heureusement, ça évolue un petit peu. Vous savez, je fais une petite remarque par rapport à ce que vous avez dit sur la justice. Moi, je me souviens, en 2017, le président de la République, Macron, avait annoncé qu'il allait créer 16 000 places de prison parce que la délinquance augmentait et parce qu'on avait besoin d'enfermer beaucoup plus d'individus. Bon, à la fin de l'histoire, au bout de 10 ans, parce que c'était 2017 pour 2022, on va arriver en 2027 et au bout de 2027, il sera à 8 000 places de prison, c'est-à-dire que le double du temps, il en a fait la moitié. Et aujourd'hui, on se retrouve confronté avec des prisons qui sont pleines à 147%, je crois, le taux d'occupation. Et souvent, et ça c'est une réalité aussi, hein, les magistrats ne peuvent pas enfermer parce qu'il n'y a plus du tout de place. Alors ça, c'est absolument incroyable. Oh, là encore, on est à l'âge de pierre. Comment on peut envisager que un État français n'ait pas assez de places de prison pour mettre des individus qui mériteraient d'y être et qui souvent sont condamnés par les magistrats pour y aller parce qu'il n'y a pas de place de prison. Bon, moi, je me demande ce que font les gardes des Sceaux depuis 10 ans. Je me demande ce qu'a fait, la promesse du président de la République. Ça, c'est extrêmement grave. Voilà, ça, c'est un premier point que je voulais rectifier. Le deuxième point, effectivement, est-ce qu'on se sent abandonné? Moi, je vais vous dire, quand on rentre dans la police, souvent, on ne sait pas ce qui nous attend et on commence à travailler, on se rend compte de la réalité des faits. Au début, on regarde ce qui se passe derrière. On regarde c'est la sanction, on regarde ce qu'il en est advenu, etc. Et puis, plus vous évoluez dans la police, alors moi, je fais partie des vieux, hein, à 31 ans, c'est sûr que je fais partie un peu des vieux maintenant. Hein. Donc, on regarde plus tout ça. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'interpeller un individu qui a agressé une mamie, c'est d'interpeller un individu qui vend de la drogue, c'est d'interpeller un individu qui a volé une voiture, et ensuite je fais mon PV d'interpellation et je le mets à disposition de l'officier de police judiciaire puis de la justice. Si vous commencez à regarder tout ce qui se passe derrière, vous serez irrémédiablement déçu et irrémédiablement vous ne ferez plus rien. Ça, c'est le conseil que je peux donner aux jeunes policiers qui rentrent. Il ne faut pas regarder à ça. Il faut juste se concentrer sur le métier qu'on a à faire, sur la mission que l'on a à accomplir. Parce que notre mission, on est des gardiens de la paix, c'est de garantir davantage la paix publique. Et quand on interpelle un délinquant, ben vous savez quoi, on a fait notre boulot. Et notre boulot, une fois qu'on l'a fait, c'est plus le nôtre de condamner, c'est plus le nôtre de mettre en prison, bien évidemment. Que pour nous, c'est mieux qu'il soit en prison parce qu'il ne nuira plus à la société. Mais il ne faut plus regarder ça parce que sinon, on n'a plus envie de travailler. Et ça, c'est pas bon. Quand vous n'avez plus envie de travailler, si les policiers n'ont plus envie de travailler, je vous assure que le pays, là, ben, vous n'allez plus marcher tranquille dans la rue du tout. Hein. Donc là, il faut faire très attention à ça, se concentrer sur notre mission et ça sera déjà pas mal. Et ne plus regarder ce qu'il y a derrière parce que vous êtes irrémédiablement déçus.
Alors, vous êtes déçus, mais les Français aussi sont déçus. C'est-à-dire, par exemple, beaucoup font reproche à Laurent Nunez d'avoir expliqué que tout avait parfaitement bien marché pendant le PSG.
Alors, très honnêtement, je vais vous dire les choses comme je les ressens. Effectivement, moi, je pense que cette phrase est une erreur de communication. Il n'y a pas d'ambiguïté. On a plus de 200 policiers blessés, il y a eu 900 interpellations. Paris a été véritablement saccagé. Dire que globalement,
Paris,
ça s'est
Bordeaux,
bien passé.
Paris, enfin voilà.
Ouais, là, je parle de Paris parce que c'était le plus important. Mais effectivement, vous avez aussi d'autres villes qui ont été. Dire que ça s'est globalement bien passé, à mon avis, c'est une erreur de communication. Maintenant, je vais vous dire parce que la critique est aisée, mais là, est difficile. Hein. Vous auriez pu mettre n'importe quel ministre de l'Intérieur. Vous auriez pu mettre 10 000 ou 15 000 policiers de plus dans la rue. Il se serait passé exactement la même chose. Donc, vous savez, là, j'entends, moi, quelques syndicalistes policiers qui donnent des grandes leçons de morale. Mais déjà, il faut être sur la voie publique pour donner des leçons de morale, hein, parce que quand on n'y est pas, c'est compliqué d'en donner, des leçons de morale. Mais surtout, il faut être réaliste et pragmatique. Vous auriez pu mettre n'importe quel ministre de l'Intérieur. Ça, c'est une certitude absolue. Il se serait passé exactement la même chose. Parce qu'aujourd'hui, on est régi par des lois. On a une doctrine d'ordre public qui est qu'on ne doit pas aller à l'affrontement physique. Vous, alors, on peut travailler sur le maintien d'ordre public. Là, on sait parfaitement bien faire, les collègues CRS, les gendarmes mobiles savent particulièrement bien faire. Mais en l'occurrence, quand vous avez des violences urbaines, comme il y a eu là, avec des individus qui étaient là clairement pour saccager, pour agresser des policiers, on l'a vu tout de suite dans leurs yeux. Ils sont arrivés avec de la haine et ils voulaient casser du flic, saccager, piller des magasins. Et bien là, il faut passer un rétablissement d'ordre public. Et le rétablissement d'ordre public, pour le faire, c'est beaucoup plus compliqué. On ne peut pas faire un rétablissement d'ordre public en jetant des gaz lacrymogènes. À un moment donné, il faut aller à l'affrontement. Et ce n'est pas pour l'instant, les techniques d'intervention que nous avons dans la tradition de l'ordre public français. Donc, il faut qu'on fasse évoluer ça. Si on ne fait pas évoluer ça, vous comprenez que les policiers vont se retrouver entre le marteau et l'enclume lors de leur intervention et peuvent être poursuivis pénalement s'il y a des individus blessés. Donc, à un moment donné, il faut qu'on puisse protéger les policiers. Vraiment protégés par la loi, les policiers, parce que dans des cas comme ça, où c'est quand même le chaos total, hein, faut pas se voiler la face, hein, et c'était le chaos total, et bien il faut qu'on puisse protéger par la loi les policiers pour qu'ils puissent intervenir en toute sécurité. Ça, c'est une priorité absolue. Mais encore une fois, n'importe quel ministre qui aurait été là samedi, je vous assure, il se serait passé exactement la même chose. Tant qu'on ne modifiera pas les lois et la législation en cours, on n'y arrivera pas.
Alors, n'en voulons pas trop à Laurent Nunez, en tout cas pour le moment. Rudy Mana, restez avec nous. Alexis Poulain nous rejoint pour faire son éditorial.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Bonjour Alexis. Et alors, Alexis Poulain nous rejoint dans un court instant. Voilà, bonjour Alexis.
Pardon. Bonjour.
Bonjour. Et donc, vous avez décidé de parler de cet État français qui n'aime pas ses enfants.
Oui, on est dans un pays qui visiblement n'aime pas beaucoup ses enfants. Évidemment, on va avoir la même litanie après le drame de la mort de Liana qui aurait pu être évité si la justice avait fait son travail, tout comme Lola, on se rappelle, tout comme Philippine, Céleste et combien d'autres. Je pourrais faire une liste, elle est beaucoup trop longue, à la fois de ceux que l'État a failli parce qu'ils n'ont pas renvoyé ceux qui n'avaient plus rien à faire en France ici et qui sont passés à l'acte, mais ceux aussi qui n'ont pas passé les dossiers parce que on ne sait pas. Et d'ailleurs, il y aura une enquête judiciaire. Mais alors, ce qui m'étonne, c'est que les politiques font comme à chaque fois, c'est-à-dire qu'ils découvrent un dossier en souffrance alors que c'est le même depuis des années. Il n'y a qu'à voir, tout était dans les conclusions de la CIVISE. Hein. Vous vous rappelez, c'était ce comité interministériel de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants qui avait été mené de main de maître par le juge Durand, qui avait fait parler plus de 30 000 victimes et survivantes de l'inceste, du viol, de la traite humaine lorsqu'on est mineur, une vie volée. 140 conclusions qui ont été mises à la poubelle tout simplement parce que la CIVISE a été sabotée. Et aujourd'hui, on fait comme s'il fallait recommencer à zéro. On se rappelle de Bétaram, un premier ministre qui a tout fait pour couvrir l'affaire et qui a passé plus de temps d'ailleurs à essayer de sauver son image plutôt qu'à gouverner la France. On peut aussi parler de l'ASE, c'est une catastrophe. C'est le premier réseau de proxénétisme en France.
Aide sociale à l'enfance.
Encore une fois, aide sociale à l'enfance, absolument. Des foyers où on recrute en masse des enfants totalement désocialisés que l'aide sociale à l'enfance a bien du mal à aider. Alors, on va dire tout le temps la même chose. Faute de moyens, non, je crois que c'est une faute de volonté. Je crois même que c'est une volonté de faire du mal aux enfants. Il n'y a qu'à voir comment tout ça est traité finalement en fin de course, dans un chapitre un peu loin. C'est loin d'être une priorité pour les candidats à la présidentielle. Alors, ils vont sans doute tous faire la danse du ventre et parler de cet intérêt majeur qu'ils ont pour la sécurité des enfants. Mais je ne crois pas que c'est sincère, malheureusement. Il n'y a qu'à voir comment le dossier Epstein a été traité par-dessus la jambe depuis 2019 par la justice française. Donc il ne s'agit pas seulement d'un dysfonctionnement dans le cas tragique de Liana, où la justice n'a pas fait son travail. C'est systémique. La justice, dans des affaires de pédocriminalité, ne fait pas son travail. Surtout quand elles impliquent, par exemple, des anciens ministres ou des réseaux internationaux comme celui d'Epstein, où il ne fallait pas parler de réseau, rappelez-vous, selon les fact-checkers de la radio-télévision publique, c'est complotiste. Alors, c'est pas complotiste de dire que la France n'aime pas ses enfants, c'est un fait. Il y a qu'à voir comment l'école est même en train de tomber en ruine. Il y a qu'à voir comment la priorité de l'éducation nationale a été les VARS, hein, les cours d'instruction sexuelle, plutôt que d'apprendre comment lire, écrire et penser et se défendre. Il y a qu'à voir maintenant comment toute cette affaire est traitée, où chacun découvre qu'ils sont responsables, mais pas coupables.
Merci de cette charge à sabre découvert contre l'État. Effectivement, on est absolument stupéfait de la manière dont l'État prend en charge la chose. Vous n'avez pas insisté, mais je me permets d'en rajouter une couche, sur la manière dont la justice traite justement le cas des prostituées mineures de l'ASE quand ils se retrouvent devant les tribunaux. Donc les juges ont tendance à donner les peines les plus légères aux clients de ces prostituées mineures. Voilà, donc c'est du sursis. Donc on est absolument stupéfait de la manière dont des pédophiles avérés, pris en plus avec des relations tarifées, avec des mineurs dont la minorité est évidente d'un point de vue physique, sont en fait ni plus ni moins relaxés par la justice, parce que coller 12 ou 18 mois de sursis à quelqu'un qui a volé une fillette ou un garçonnet, sans évidemment qu'une quelconque question de consentement puisse avoir lieu, c'est absolument stupéfiant. Vous avez raison d'expliquer que c'est systémique et que ce n'est pas un défaut. En fait, la justice est laxiste avec les pédophiles. On peut aussi reparler effectivement de l'aide sociale à l'enfance. Vous parlez des ministres, d'Epstein. En fait, l'aide sociale à l'enfance est placée sous la direction des régions et des départements. Quel président de conseil régional s'est retrouvé en tôle parce que les enfants de l'aide sociale à l'enfance dans son territoire avaient été soumises à la prostitution? On n'est pas capable d'aligner un seul nom parce qu'en fait, il n'y en a pas un.
Il n'y en a pas, voilà. Exactement, il n'y en a pas un et à la fois ça va être des enquêtes comme d'habitude hein, qui vont établir une chaîne de responsabilité où personne ne sera responsable, c'est toujours la même chose. Le plus choquant pour moi ça a été quand la Civise qui avait tout mis sur la table, hein, notamment sur la prescription, sur le fait de prendre en compte la parole de l'enfant. On peut remonter à Outreau, hein, où Dupond-Moretti a eu son rôle hein, pour saboter, là encore, la parole des enfants. C'est une volonté. C'est-à-dire que la Civise, il y avait simplement... tout était fait, il n'y avait plus qu'à faire les lois. Les lois n'ont pas été faites, la Civise a été sabotée. Et puis l'ogre d'Outreau, l'avocat Dupond-Moretti, a été... placé à la justice par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est Gérald Darmanin qui découvre que, oh là là, ça ne fonctionne pas, comme s'il ne le savait pas déjà. Alors, c'est cette hypocrisie-là, en fait, qui est insupportable. Parce que pendant que ces hypocrites font semblant, les gamines, elles meurent.
Les gamines et les gamins. Dans le cas de la dernière en date, là aussi... On nous explique que le périscolaire est devenu une priorité. On nous explique, bien sûr, que tout est mis en place. En fait, ça fait des années...
J'ai pas parlé du scandale, bien sûr, des assistants périscolaires à Paris. Mais c'est là encore un scandale que Emmanuel Grégoire, qui était en charge de l'enfance sous Hidalgo, ait pu faire campagne sans être empêché par ce thème, et pu même être élu sur le bilan d'Anne Hidalgo, un bilan calamiteux. On parle quand même de plus de 70 cas de viol d'enfants dans les écoles à Paris, comme si c'était pas grave, encore une fois, comme s'ils avaient tout fait pour que ça n'arrive pas. Quand il y avait un cas avéré, le pédocriminel était simplement transféré d'école.
Oui, oui. C'est amusant d'ailleurs parce que quand il s'agissait des écoles catholiques ou de l'église catholique et qu'un prêtre était déplacé d'une paroisse à un autre, on a entendu évidemment, à juste titre, le monde politique entier jeter les hauts cris. Et d'ailleurs, l'église catholique est une institution qui a mis en place la SIASE et donc qui a fouillé sur des dizaines d'années, ressortant des affaires qui étaient évidemment... totalement prescrite pour faire amende honorable et expliquer à quel point ça allait mal. Où est la commission d'enquête sur l'éducation nationale? Où est la commission d'enquête sur le sport à l'école? Où est la commission d'enquête, en fait, sur la manière dont il y a quand même de fortes chances que quand il y a des millions d'enfants soumis à des centaines de milliers d'adultes ayant autorité sur eux, dont aucun recrutement n'a jamais examiné s'ils étaient ou pas des pédophiles en puissance ou en acte, étant donné la manière dont on traite le casier judiciaire dans ce pays, eh bien là, silence total et évidemment impunité totale de l'éducation nationale.
Bien sûr. Oui.
Merci beaucoup Alexis Poulain d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous et nous rejoignons Rudy Mana. Mais avant de rejoindre Rudy Mana, c'est le moment de parler évidemment à tous les gens qui sont en train de nous écouter de la nécessité de nous aider dans notre combat pour la vérité en nous soutenant financièrement.
Et si vous souhaitez nous soutenir financièrement, eh bien, je vous invite à vous rendre sur cette adresse soutenir.rc.fr afin de nous faire un don en ligne. Et puis, vous pouvez également adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Merci Arnaud.
Ligne droite.
Nous avons de la visite.
Le face-à-face.
Alors, Alexis Poulain, nous avons parlé avant que vous n'arriviez avec Rudy Mana du métier de policier, évidemment de la manière dont ce métier était difficile, des instructions qui étaient données, des erreurs de communication de Laurent Nunez, et j'avais essayé de demander à Rudy Mana s'il n'avait pas l'impression qu'il y avait parfois un peu un deux poids deux mesures, soit dans les instructions données, soit dans la manière dont les policiers étaient en train d'accomplir leurs tâches et la manière dont chacun, avec son propre jugement, était plus ou moins sévère. D'après Rudy Mana, voilà, ce qui compte pour un policier, c'est de faire son métier et après de laisser l'appareil judiciaire faire le sien, en évitant de regarder en arrière, parce que généralement c'est décevant. Quel est votre sentiment sur le maintien de l'ordre en France ? Alexis Poulain.
Pour moi, sur le maintien de l'ordre, on peut dire que c'est un métier difficile qui est là encore une fois largement dévoyé par le politique. On a vu la transformation de la police en une sorte de police armée qui est là pour mater des mouvements de foule, mais qui arrive systématiquement à l'affrontement trop tard, utilisée sur des sites comme Sainte-Soline où on parle d'affrontement plutôt que de maintien de l'ordre, etc., etc. Et dans les missions de protection, justement, on a l'impression que là, c'est le parent pauvre, c'est beaucoup plus difficile. Et puis la police ne peut pas tout faire. Voilà, ça fait des années qu'on parle de territoire perdu de la République, qu'on parle de narcotrafic, de quartiers entiers qui sont dédiés au trafic et aux mains des trafiquants. Je suis désolé, c'est aussi, là encore, un laisser-faire et une hypocrisie politique de plus qui a permis l'émergence de cette scène aussi importante du narcotrafic en France, parce qu'on a fait croire que la police suffirait à lutter contre le narcotrafic. Non, il faut des lois, il faut des infrastructures, il faut de la volonté politique, et puis arrive un moment où la police ne suffit pas, et même où c'est dangereux pour les forces de l'ordre. Donc, on est là encore dans une faillite d'un système qui a été organisé, bien sûr, avec d'abord la fin de la police de proximité, avec, comme je le disais, le manque des moyens sur l'enquête, avec aussi la façon dont les policiers ont essayé de faire leur travail en étant confrontés à l'impossible. Et puis, c'est un métier où il faut rappeler à la fois le nombre de suicides et le nombre de démissions. C'est-à-dire que les policiers qui veulent bien faire leur travail, ils n'y arrivent pas. Donc la porte de sortie est assez rapide, malheureusement.
Rudy Mana, lorsqu'on pose la question aux auditeurs de Radio Courtoisie qui nous écoutent depuis ce matin sur la question assez simple, pensez-vous que la police défend l'intérêt des Français ? Ils sont 90% à répondre qu'ils pensent que la police ne défend pas véritablement l'intérêt des Français. C'est un sentiment de colère par rapport à l'impunité dont jouissent les casseurs, ou il s'agit de révéler un malaise plus profond entre la police et le peuple, malaise peut-être entretenu, comme le suggère Alexis Poulain, par l'État.
Alors franchement, je pense que si on demande ce que le peuple de France, si on demande au peuple de France qui pense des forces de police aujourd'hui, je crois que les derniers sondages étaient à 75% qui a une très très bonne opinion de la police nationale française. Donc là-dessus, je préfère penser comme ça. Effectivement, il s'est passé ce week-end des événements qui font que les Français, en fait, c'est pas forcément, je pense, à la police qu'ils en veulent, puisque ils ont bien vu que la police, elle a fait ce qu'elle a pu. Hein. On a quand même plus de 200 blessés, on a fait presque 900 interpellations. Bon. Mais malheureusement, quand on voit les premières comparutions immédiates, où honnêtement, il n'y en a pas un pour l'instant qui a mis un pied en prison, c'est sûr que c'est difficilement audible pour le peuple de voir qu'ils ont tout cassé dans Paris. En fait, il n'y en a pas un qui est en prison pour l'instant. J'ai beaucoup aimé l'édito, là, ce qui vient d'être dit. Vous savez, la police aujourd'hui déjà, effectivement, est-ce que les enfants de la République, ils sont délaissés par l'État? Moi, je crois qu'on n'en est pas loin de ça, en tout cas. Quand on voit l'état de la police, de la gendarmerie, des pompiers, des hôpitaux avec des infirmières, des écoles avec les professeurs, je me dis que, moi, je dis souvent que nous sommes la dernière digue républicaine. Et je pense que l'État ne préserve pas assez cette dernière digue républicaine. M. Poulain a très bien parlé de l'état d'esprit des policiers. Vous savez que c'est le deuxième métier où il y a le plus de suicides. Mmh. On en parlait tout à l'heure, derrière les agriculteurs. Vous voyez, on est dans la même galère. Et c'est pour ça que moi, je ne me confronterai jamais à un agriculteur parce qu'on est dans la même galère. Il a parlé également, à très juste titre, et très peu en parle, des démissions dans la police. Depuis 4 ans, on n'a jamais eu une vague de démission aussi importante. Ça, on n'en parle pas assez et c'est une réalité. On a quasiment 15 000 policiers qui sont partis depuis 4 ans. Et ces policiers-là, ce n'est pas des gens comme moi qui ont 52 ans. Bon, on est un peu en fin de cycle, on est un peu fatigué, quoi. Ce n'est pas nous qui partons, parce que nous, dans 6 ans, on est à la retraite, parce que Dieu merci, on a encore l'avantage de partir un petit peu plus tôt à la retraite. Peut-être pas pour longtemps, mais bon, on espère. Ce sont des gens qui ont entre 5 et 8 ans de police. C'est-à-dire des jeunes qui devraient être ultra motivés et ultra concentrés sur leur carrière, eh bien, ils n'en peuvent plus parce qu'ils disent « mais nous, on ne peut pas continuer à travailler dans un tel climat. Tout ce qu'on fait, il y a une suspicion, on est traîné dans la boue systématiquement. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font, ces gamins ? Ils démissionnent. Parce que si on gagnait encore 5 ou 6 000 euros par mois, si on était bien payés, les policiers, mais on ne fait pas ça pour l'argent. » Parce que franchement, moi en fin de carrière, j'ai pas honte de le dire, hein, je suis brigadier chef, je suis à 2900 euros au bout de 32 ans de carrière, je suis à 2900 euros par mois et je suis brigadier chef. Donc, si on faisait ça pour l'argent, ben encore on pourrait comprendre qu'on continue à supporter cela. Mais c'est même pas, on est des smicards de l'administration. Donc si vous voulez. Ce sont deux phénomènes, moi, qui m'inquiètent particulièrement. Alors, les suicides, ça dure depuis beaucoup plus longtemps. Hein. C'est en moyenne une 35, je crois, suicides par an depuis 25 ans. On est dans des chiffres absolument fous. C'est quand même complètement dingue que 35 policiers se donnent la mort depuis 30 ans par suicide. Et puis, depuis 5 ans, on a ce phénomène de démission et de disponibilité. Les policiers ne veulent plus continuer à porter l'uniforme de policier, non pas parce qu'ils sont pas fiers de le porter, parce que tous les policiers sont fiers de porter l'uniforme. Et moi, le premier, au bout de 31 ans, je suis extrêmement fier de porter cet uniforme de police. Et ça, je indiquerai toujours. Mais au bout d'un moment, vous en avez tellement marre des décisions de justice, de la manière dont vous êtes traîné à la boue, d'un management parfois absolument toxique. Toxique parce que tout le monde a peur de celui qui est au-dessus. Donc le management est catastrophique. Et bien, au bout d'un moment, ben, ces policiers, ils s'en vont, ils font autre chose. Moi, j'ai vu des policiers qui partaient, qui devenaient électriciens. J'ai vu des policiers qui allaient travailler dans des sociétés. J'ai vu des policiers qui faisaient plein d'autres choses totalement différentes de la police. Ça, c'est un vrai sujet. Et j'espère que il y a une élection extrêmement importante là qui arrive en 2027. Hein. La prochaine présidentielle, c'est quand même une élection, à mon avis, qui est extrêmement importante, qui peut représenter un tournant. J'espère que tous les candidats vraiment vont prioriser ce problème-là. Cette dernière digue républicaine. Il faut pas oublier une chose. Si cette dernière digue républicaine saute, la France explosera. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de possibilité derrière. Les flics, les gendarmes, les infirmiers, les pompiers, les professeurs, plus personne n'en peut plus. Tout le monde n'en peut plus. Plus personne ne supporte la situation. Et ça, il faut régler ce problème et prendre ce problème à bras le corps. Et ce sont les politiques qui doivent faire ça à travers un programme qui ira dans le sens de tous ces. Moi, j'appelle ça les héros de la République. Ce sont des héros de la République. Et à un moment donné, ces héros, il faut les féliciter, il faut les remercier, il faut les mettre en avant. Parce que sinon, mais vous savez quoi? À la fin de l'histoire, ce sont les voyous qui deviennent les héros de la République. Et moi, je veux pas vivre dans un pays comme ça.
Alors effectivement, personne n'a envie d'un pays où Naël a sa statue et Adam Traoré une avenue à son nom. Et néanmoins, nous avons, nous à Radio Courtoisie, une vision parfois un peu différente de la police, à cause notamment de la manière dont sont traités les militants de droite, comme par exemple les militants nationalistes. Ils déploient une banderole, la police arrive chez eux à 6 heures du matin pour les arrêter et les emmener menottes au point pour avoir déployé une banderole. Vous parliez à juste titre du PSG, on a vu les Black Blocs, ça fait depuis 2018 avec les Gilets jaunes qu'on voit la France être ravagée par des manifestations, sans parler effectivement de la délinquance ordinaire qui en fait est extrêmement violente. Mais peu d'interpellations, combien de Black Blocs ont été condamnés, pas tant que ça, pour des violences incroyables. La jeune garde est dissoute, on trouve des excuses à ceux qui ont assassiné Quentin de Ranque. Des militants nationalistes déploient une banderole, la BAC débarque chez eux. Des militants nationalistes lancent des fumées dans le ciel. La police débarque chez eux en leur expliquant que la justice leur a demandé de les interpeller pour mise en danger de la vie d'autrui, parce qu'on a le fait de respirer une fumerole serait particulièrement dangereux. On a le sentiment, ça m'a frappé tout à l'heure quand vous disiez « si je n'ai pas envie de faire quelque chose, je ne le fais pas », on a le sentiment que ces policiers que vous nous décrivez comme étant eux aussi aux abois, eux aussi énervés, eux aussi déçus par la politique, eux aussi inquiets de l'état du pays, des policiers dont on sait qu'ils votent majoritairement à droite et même Rassemblement National, quand il s'agit d'exécuter les ordres pour faire en sorte que la répression contre les nationalistes soit forte, quels sont les policiers qui ont refusé d'obéir aux ordres? On ne sait pas.
Alors, dans ce genre de situation, vous le voyez sous un prisme, et honnêtement, je vous dis la vérité, vous avez raison, hein, il y a eu des instructions judiciaires. Alors, vous savez, quand vous avez des instructions judiciaires, là, vous n'avez pas le choix. On vous dit d'aller interpeller à 6 heures du matin telle personne. Là, vous ne pouvez pas refuser un ordre. Ça, c'est un ordre donné par l'autorité judiciaire. On ne peut pas le refuser. Si on refuse ça, on se met en faute et immédiatement, on est sanctionné. Donc, effectivement, il est certainement arrivé, bien sûr, il est arrivé qu'on aille interpeller des militants nationalistes de droite chez eux à 6 heures du matin. Mais je vous assure vraiment qu'il nous est souvent, très souvent arrivé d'aller interpeller des militants extrémistes de gauche chez eux à 6 heures du matin. Alors après, malheureusement, effectivement, souvent on a un prisme médiatique qui nous fait parler comme ça. On a l'impression que la parole médiatique est souvent plus favorable aux extrémistes d'une gauche dure, traditionnelle, antifa, qui sont beaucoup plus violents, qui sont extrêmement violents, la police, hein, il ne faut pas se voiler la face. Hein. D'ailleurs, dans les rassemblements de samedi soir, il y avait énormément de militants d'extrême-gauche, hein. Il faut le savoir. Hein. Il y avait des jeunes de quartier, des jeunes de cité, il y avait des mineurs, il y avait des jeunes qui étaient connus des services de police, il y avait tout ça. Mais il y avait aussi, et ça c'est apparu pour la première fois depuis quelque temps, beaucoup de militants d'extrême-gauche, comme celui-là, j'arrive pas à trouver le terme pour pas être désagréable, le gars qui est passé à BFM TV, là, qui a fait son cinéma, son cinéma absolu, qui a vomi sur la police, pardon de l'expression, hein, mais j'ai que celle-là qui me vient en tête pendant 10 minutes, à raconter n'importe quoi sur les flics, à raconter des horreurs absolues, et on découvre après que c'est un militant d'extrême-gauche qui milite toute la journée pour LFI et pour des groupuscules d'extrême-gauche qui sont extrêmement violents. Bon, ça, c'est pour la petite anecdote, mais très honnête, d'ailleurs, il y a un appel du parquet hein, sur cette affaire-là. Il avait pris 4 mois mis sursis, le parquet a fait appel, hein, donc j'espère qu'il va prendre beaucoup plus. Mais ce que je veux dire, c'est que on interpelle aussi, vraiment, beaucoup de militants d'extrême-gauche, et je vous assure que dans les rassemblements, dans les manifestations où des groupes de Black Bloc arrivent, je vous assure qu'on a souvent des policiers qui ont des techniques policières pour être dans les manifestations et qui interpellent ces individus très régulièrement. On les interpelle dans ces rassemblements et ces manifestations. Et franchement, je peux pas laisser vous dire qu'on le fait que d'un côté et pas de l'autre, parce que franchement, ça ferait ombrage à tous mes collègues qui prennent des risques dans ces manifestations pour interpeller ces individus. Et je vous assure qu'on le fait. On les présente à la justice. Et encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on ne maîtrise pas les sanctions pénales qu'il y a derrière, ce n'est pas notre rôle. Et c'est vrai qu'on peut être parfois surpris. Bon, moi, comme je ne regarde plus ce qui se passe derrière, parce que sinon, voilà, je vous l'ai expliqué tout à l'heure également, je laisse faire le travail à la justice. Mais honnêtement, non, je veux rétablir cette vérité. On fait tout autant avec les militants d'extrême gauche, et parfois les magistrats nous demandent d'aller interpeller des militants d'extrême gauche à 6 heures du matin chez eux. Hein, ça nous arrive aussi assez régulièrement.
Bon, et ben voilà, c'est, voilà qui nous rassure tous.
Non, oui. Voilà,
c'est dommage. C'est dommage qu'on en parle moins. Alexis Poulain, il nous reste une minute, le mot de la fin sur cette question de « Y a-t-il un problème avec la police ?»
Le problème avec la police, il est politique, voilà, parce qu'on va mettre plus de moyens sur des questions politiques, sur le cyberharcèlement de Brigitte Macron, sur des choses qui finalement ne sont pas essentielles. Et là où la mission première de la police, qui est de protéger les populations et les Français, ben, on a l'impression que c'est le parent pauvre. Il n'y a qu'à voir l'état des commissariats, c'est pas plus reluisant que l'état des hôpitaux ou des écoles.
Très bien. Merci beaucoup Alexis Poulain. Merci beaucoup Rudy Mana de votre témoignage. Et merci à tous deux d'avoir participé à ce débat. À très bientôt sur Radio Courtoisie.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Richard de Sèze.
Tout à l'heure, ce sera avec Pascal Pointu, notre paysan préféré. Et ensuite, et juste avant, pardon, il y aura eu Débattons-en avec Anne Coffinier. L'éducation nationale est prête à attaquer les écoles libres. Et à présent, un petit rappel de l'actualité avec Maëlys Clausel.
Un rassemblement en hommage à Henry Nowak, jeune Britannique de 18 ans, poignardé par un immigré indien, se tiendra ce dimanche 7 juin à 17h, place du Panthéon à Paris. Nous invitons les auditeurs parisiens à s'y rendre et Ligne Droite sera sur place. Et auditionné au Sénat, Pierre-Édouard Stérin a défendu son projet Périclès, destiné à promouvoir les idées libérales, conservatrices et à favoriser l'émergence d'une majorité de droite. Il a également assumé son statut d'exilé fiscal, affirmant avoir quitté la France sous François Hollande. Mais n'ayez crainte, les socialistes nous expliquent qu'on n'importe que des ingénieurs et des médecins pour compenser, on est sauvé. Le procès du braquage d'une boutique SFR à Alès a été renvoyé en novembre. Pourquoi ? Eh bien parce que l'avocat du principal suspect, Kamel Aissaoui, connu pour défendre inlassablement la DZ Mafia, est actuellement en détention provisoire dans une affaire liée à l'organisation criminelle. Et nous célébrons ce jour Saint-Constantin de Kiev, métropolite de Kiev au XIIe siècle.
Merci beaucoup Maëlys Clausel.
Ligne droite.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout. Dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Ligne droite, débattons-en.
Et pour ce débat, j'ai le plaisir de recevoir Anne Coffinier, présidente fondatrice de Créer son école. Bonjour madame.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes donc la présidente fondatrice de Créer son école, vous êtes en faveur d'un enseignement libre. Vous avez examiné avec soin la manière dont l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la proposition de loi sur les violences scolaires. On sait qu'il y avait un article qui était polémique, c'était celui qui proposait de lever le secret de la confession, pourtant reconnu par l'État français. Donc ce n'est pas juste une loi de l'Église, c'est aussi une loi française, c'est la loi sur le secret professionnel. Les arrêts de la Cour de cassation sont nets sur la question. Et donc tout le monde était content, enfin en tout cas la droite était contente de voir que cet article avait été écarté. Mais vous avez regardé en détail un autre article qui lui recèle un venin possible, c'est l'article 7 qui dit notamment que les écoles sont obligées d'accepter que les inspecteurs de l'éducation nationale interrogent seuls les élèves.
Oui, alors avant de rentrer déjà dans le détail de l'article 7, ce que je voulais déjà dire, c'est que lorsqu'il y a des lois sur des sujets traumatiques, comme la question des violences faites aux enfants, il n'y a plus de réflexion sur le contenu de ce qui est proposé. En réalité, ça devient politiquement impossible d'être contre ou de voter contre une loi de protection des mineurs. Et donc, c'est là que tous les dangers se développent, parce que comme politiquement, il n'y a plus d'espace pour la critique, eh bien, on peut passer toutes sortes de cavaliers de nature différente qui règlent des comptes historiques, par exemple, là, par rapport à la liberté scolaire ou par rapport à l'Église, parce que politiquement, ce n'est pas possible de s'opposer. C'est comme ça qu'on est arrivé à avoir une adoption à l'unanimité d'une loi, alors qu'elle recèle toute une série de dispositions liberticides. Donc ça, je voulais dire que c'est vraiment très important ce mécanisme, parce que c'est souvent là qu'on a des reculs démocratique finalement important. Après, si on rentre plus dans la stratégie, on a un chiffon rouge absolu, évidemment, qui est le secret de la confession. Donc, toutes les forces, si vous voulez, de lobbying, notamment de l'Église, etc., se concentrent là-dessus, et c'est bien normal d'ailleurs. Mais pendant ce temps-là, évidemment, il y a d'autres dispositions très corrosives qui sont passées. Et donc, le coup de Jarnac, j'ai envie de dire le plus terrible, et qui potentiellement pourrait revenir au Sénat, c'est la question de, comme on dit, CDDiser le contrat d'association avec l'État pour une école. C'est-à-dire que c'est un principe constitutionnel qui s'appelle la liberté d'enseignement. Sur cette base-là, la loi Debré a été prise et a donné aux écoles catholiques notamment, mais aussi juives, protestantes, enfin, différentes écoles, la possibilité de passer un contrat d'association avec l'État. Et évidemment, il ne s'agit pas d'un contrat précaire. Il s'agit vraiment de quelque chose de long, de profond, qui n'est pas conçu pour avoir un début et une fin. Et là, subrepticement, il y a une proposition au sein de cette donc, proposition de loi Spielboots pour précariser, pour CDDiser le contrat d'association, ce qui est évidemment une fragilisation extraordinaire de la position, notamment de l'enseignement catholique, par rapport à un État qui aujourd'hui cherche à récupérer des contrats parce qu'il n'y a plus d'argent et parce qu'il y a une baisse démographique. Donc ça, par exemple, cette disposition-là, elle est absolument cruciale et on n'en a pas beaucoup parlé.
Alors, avant qu'on revienne effectivement sur la possibilité de fermer un établissement et ce genre de choses, concentrons-nous quand même justement sur l'alinéa 11 de l'article 7. Donc, les inspecteurs pourront désormais interroger seuls les élèves. Oui. C'était quelque chose qui est absolument stupéfiant. C'est-à-dire, normalement, chaque fois qu'il s'agit d'enfants, on interdit au personnel de l'éducation nationale d'être seul dans une pièce fermée avec un enfant. Mais là, les inspecteurs de l'éducation nationale qui viendront dans les écoles libres ou même les écoles libres hors contrat pourront exiger qu'il n'y ait aucun membre du personnel enseignant ou du personnel de gestion, de direction de l'établissement qui soit là pour les écouter poser des questions à l'enfant, sachant que les questions que posent ces inspecteurs de l'éducation nationale, on en avait parlé avec la Fondation pour l'école il y a quelques mois, sont parfois terriblement intrusives. C'est « vas-tu toujours à la messe ? Y a-t-il un crucifix chez toi ?» Autrement dit, ils rentrent dans l'intimité de la famille de l'enfant et même ils rentrent dans la psychologie de l'enfant sans qu'on comprenne en quoi ça a à voir avec la manière dont le gamin apprend véritablement le français, la littérature et les langues étrangères.
Oui, alors jusqu'à présent, le cadre dans lequel les inspections se font n'est pas parfaitement bordé sur la question de savoir si on peut interroger ou pas un enfant seul. Mais il y avait eu des préconisations dans le cadre d'une sorte de circulaire qui disait que ce n'était pas le principe et que ce n'était pas la solution à privilégier. Pour autant, la porte n'était déjà pas fermée. Et donc, régulièrement, ça se produisait. Et c'était vraiment une question, si vous voulez, de capacité de résistance morale du chef d'établissement qui, lorsqu'il avait un peu de poigne, disait « Écoutez, monsieur l'inspecteur, non, qu'est-ce qui vous permet de faire ça ? Je ne suis pas au courant, donc je m'y oppose. C'est moi le responsable de cet enfant, les parents me l'ont confié. Donc je suis désolée, mais je sais rien de vous, je n'ai pas vu votre casier judiciaire, donc ce n'est pas possible. » Mais ça, pour ça, il faut quand même avoir, si vous voulez, une certaine poigne, une certaine fermeté. Parce que lorsque vous êtes inspecté, que votre école peut être fermée sur simple décision administrative, parce qu'aujourd'hui, il n'y a même plus besoin de passer par le juge pour fermer une école, hein, c'est devenu extraordinairement simple, c'est d'ailleurs scandaleux, eh bien, vous avez tendance à faire profil bas. Donc déjà, ça, c'était la situation actuelle. Et effectivement, cette situation a donné lieu à des débordements. Alors, c'est très inégal. Hein. Il y a des endroits où il n'y a aucun problème et il y a des endroits où c'est complètement délirant. Je me souviens à Marseille, par exemple, d'une école, en l'occurrence, c'était une école, la Fraternité Saint-Pie-X, dans laquelle les inspecteurs avaient demandé à un petit enfant de maternelle ce que ses parents votaient aux élections.
Voilà.
C'est bon, là, on est en dehors de toute forme de légalité, à l'évidence. Sauf que qui est témoin ? Qui peut donner une preuve de ça ? Hein, c'est évidemment très compliqué. Après, il y a beaucoup de questions qui portent sur la sexualité. Est-ce que tu te masturbes ? Des questions comme ça qui sont posées et qui sont là aussi complètement délirantes. Il y a beaucoup de questions qui portent sur ce qui se passe chez soi ou des questions qui sont assez limites sur le personnel d'encadrement. Donc ça, théoriquement, si on regarde la proposition d'amendement, théoriquement, c'est bordé, puisqu'ils sont supposés poser des questions uniquement sur la vie dans l'établissement, et non pas dans les à côté. Mais on sait très bien qu'en pratique, il y a des glissements permanents. Donc ça, ce type de disposition, je pense que ça pourrait être contré précisément, comme vous le soulignez, à un moment où on essaie de protéger les enfants de situations où ils seraient tout seuls face à un adulte. Donc c'est un peu compliqué d'aller expliquer que dans certains cas, un enfant peut être tout seul face à un adulte et dans d'autres, il ne faut surtout pas qu'il le soit. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a toujours cette espèce de présomption de culpabilité de la part de soit des parents, soit de l'enseignement privé. Cette idée que l'enseignement privé, c'est le lieu de l'omerta, c'est le lieu de l'entre-soi, et que donc s'il y a un problème, il ne sera pas dit. Alors que dans une école publique, il y a beaucoup plus de brassage des gens, il y a beaucoup plus de brassage d'idées, et donc théoriquement, les problèmes sortent plus facilement. Et là, hélas, quand on voit le drame absolu du périscolaire, qui est à une écrasante majorité, en tout cas si on parle de Paris, situé dans des établissements publics, force est de constater qu'il ne suffit pas qu'une structure soit publique pour qu'il n'y ait pas d'omerta. Donc, tous ces raisonnements sont sous-tendus par des considérations idéologiques qui tendent toujours à culpabiliser les familles, les établissements libres, et qui tendent, à l'occasion de d'une reprise en main de la protection des mineurs qui est bienvenue, qui est normale, qui est urgente et qui est nécessaire, mais à l'occasion de ce juste combat, eh bien, c'est l'occasion de donner encore plus de contrôle, encore plus de suspicions, encore plus de contraintes, à la fois aux familles et aux établissements libres, qu'ils soient sous contrat ou hors contrat d'ailleurs.
Alors, vous aviez, dans votre analyse scrupuleuse de la loi, aussi relevé les alinéas 20 et 23, je cite, qui prévoient la possibilité pour le préfet de fermer un établissement sans mise en demeure préalable en cas d'atteinte aux valeurs de la République. Donc, retraduit, ça signifie qu'un préfet peut dire à un directeur d'établissement que du jour au lendemain, son école est fermée, voilà, donc plus personne ne peut y mettre les pieds, à condition que les valeurs de la République, selon l'estimation du préfet ou le rapport fantaisiste ou non fantaisiste d'un inspecteur d'éducation nationale, n'ont pas été respectées, sachant que ces valeurs de la République ne sont jamais précisées nulle part.
Oui. Lorsqu'un établissement est inspecté, il y a en général donc ce qu'on appelle un rapport avec potentiellement des mises en demeure. Et la mise en demeure vous dit, vous devez respecter, vous devez corriger tel ou tel aspect et vous avez tant de jours pour le faire. C'est le principe quand même du contradictoire qui régit les inspections. Et c'est fondamental en droit puisque ça donne la possibilité de se défendre. Ce qui est prévu et qui, à mon avis, est complètement inconstitutionnel, anticonstitutionnel, donc ça veut dire que ça ne passerait pas la rampe d'un passage au Conseil constitutionnel, c'est de dire qu'une autorité administrative, parce qu'attention, c'est même pas un juge, hein, une autorité administrative, donc concrètement, parlons très concrètement, c'est un inspecteur qui est un ancien prof d'anglais, qui passe avec éventuellement un confrère qui est un ancien professeur, je ne sais pas moi, d'EPS, qui sont devenus inspecteurs, qui viennent dans votre établissement et qui considèrent que finalement le respect du socle commun de connaissances n'est pas forcément très sûr, ou bien que vous avez une présentation de l'histoire ou de la géographie qui ne correspond pas à l'idée qui se fait des valeurs de la République, eh bien ils vous ferment instantanément. Donc vous voyez bien, ça ne tient pas la route. En droit, ça ne peut pas tenir une seconde, une affaire pareille. Et ce qui est d'autant plus délirant, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, dans les logiques de mise en demeure, en fait, l'État peut tout à fait adapter les délais par rapport à ce qu'il juge opportun. Ça veut dire que, matériellement parlant, déjà aujourd'hui, dans l'état de la loi, il peut très bien décider d'envoyer le jour même, par exemple, de la visite, une mise en demeure, en expliquant que l'école a jusqu'à demain midi pour régler le problème. Donc ça veut dire qu'ils peuvent déjà faire une mise en demeure complètement ridicule, par exemple d'une demi-journée ou d'une journée. Donc on voit bien que l'enjeu là n'est absolument pas d'augmenter la protection des mineurs en rendant plus ferme la main de l'État. On voit que l'enjeu, c'est tout simplement d'accroître la capacité de sanctions arbitraires sur l'enseignement libre pour que, ayant peur d'être fermé, eh bien, ils s'alignent toujours plus sur les exigences de l'État, quelle qu'en soit la pertinence. Parce que si vous voulez, ce qui a complètement changé depuis la loi d'août 2021 sur le séparatisme, c'est qu'on est passé d'une logique où, pour être fermé, il fallait passer par le juge, et donc vous aviez le temps. Si vous voulez, la charge de la preuve était apportée par celui qui voulait vous fermer, c'est-à-dire par l'État. Tandis que maintenant, c'est plus comme ça, c'est une mesure administrative, c'est-à-dire que l'administration ferme votre école, et si vous le contestez, alors libre à vous de saisir le juge, avec toute la lenteur propre à la justice en France qui est parfaitement saturée. Ce qui veut dire que vous en avez pour 3 ans pour faire reconnaître que vous aviez raison d'être ouvert. Mais évidemment, après 3 ans de fermeture, il va sans dire que votre école, elle ne peut plus renaître. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a une épée de Damoclès permanente sur l'ensemble des établissements libres pour pouvoir être fermés si, par exemple, le préfet ou le maire ou le recteur en ont une ferme volonté.
Une volonté évidemment politique, parce que, faisons un petit aparté, quand on regarde les résultats scolaires des écoles libres, y compris des écoles libres hors contrat, elles se classent systématiquement dans le peloton de tête.
Oui, mais c'est important de distinguer deux plans. Bien sûr, je suis d'accord avec vous que c'est bien beau d'être sur le dos des écoles libres alors qu'elles ont de meilleurs résultats académiques que les écoles publiques. En général, attention, hein, pas tout le temps. Mais il y a quand même un autre aspect, c'est la question de la protection d'enfants contre les embrigadements, contre les dérives sectaires, contre les violences, contre les emprises, etc. Et ça, c'est un fait distinct. Vous pouvez avoir des écoles, si vous voulez, qui sont très performantes. Prenez par exemple le cas des établissements type Averroès ou Alkindi. Eh bien, ils sont très solides d'un point de vue académique. On ne peut pas le contester. Néanmoins, c'est un lieu d'une emprise idéologique islamiste totale. Donc, vous voyez, il faut distinguer les deux plans. Il y a le plan de la sécurité de l'enfant, sécurité de l'intégrité physique et morale. Il y a le plan potentiellement de l'endoctrinement. Et il y a le plan de la performance académique. Et ce qui est très compliqué en France, c'est que comme on veut absolument traiter toutes les religions sur le même plan, sans tenir compte du fait que, par exemple, dans la religion musulmane, il y a une dimension politique de conquête, eh bien, comme on veut les traiter tous de la même manière, eh bien, lorsqu'on cherche à sévir, par exemple, sur les écoles à tendance islamiste, eh bien, on porte des coups directs aux écoles catholiques.
Qui sont pourtant, elles, totalement dans les clous par rapport à l'État français et depuis très longtemps. Et est-ce que l'éducation nationale, donc qui prétend être un lieu de brassage, un lieu d'excellence, un lieu de sécurité, donc évidemment ça sert à rien de rappeler le périscolaire parisien, ça ne sert à rien d'expliquer qu'il y a évidemment un scandale sous-jacent qui n'a pas encore explosé mais qui finira par exploser, qui est le scandale de la pédophilie dans le scolaire et pas juste dans le périscolaire. On voit pas pourquoi l'éducation nationale serait par miracle préservée de ce qui accable tout le reste de la société. Et l'éducation nationale ne cherche-t-elle pas en fait à exercer un contrôle total, à avoir le monopole absolu sur l'éducation d'un point de vue purement idéologique contre toutes les autres formes d'éducation qui ne seraient pas strictement étatiques?
Ce bras de fer existe depuis la Révolution française, hein, c'est bien clair, c'est-à-dire que d'un côté, il y a dans la tradition de la chaloté, etc., cette idée que l'enfant, dès sa naissance, appartient à l'État et que ce n'est que pour des raisons naturelles et de logistique, quelque part, qu'il est concédé aux parents parce que ce n'est pas bien pratique d'élever un enfant jusqu'à un certain âge. Un peu comme dans la logique de l'éducation spartiate, par exemple. Hein, on laissait l'enfant jusqu'à 7 ans dans les jupes de sa mère et puis après, quelque part, on le mettait dans l'armée quoi, pour le prendre en main. Eh bien, voilà, donc on a d'un côté cette conception-là, puis de l'autre côté, on a la conception, j'ai envie de dire, classique, défendue notamment par l'Église catholique, mais pas uniquement, qui est de dire que bien, les enfants n'appartiennent à personne, mais enfin qu'ils sont sous la protection de leur famille, qui sont naturellement, c'est-à-dire par la nature même, responsables d'eux, et que c'est donc eux les premiers éducateurs dont il faut préserver à tout prix le rôle et la fonction. Donc ce sont deux conceptions du monde, et ces conceptions du monde s'opposent notamment sur la question de la distinction entre l'instruction et l'éducation. Puisque pour l'éducation nationale, et vous remarquez bien qu'elle s'appelle depuis 1932 l'éducation nationale, eh bien il ne s'agit pas de faire uniquement de l'instruction, mais il s'agit de faire de l'éducation. Et j'ai envie de dire, il s'agit surtout de faire de l'éducation ou même de la rééducation. Et on le voit aujourd'hui dans le contexte du développement de EVARS, donc la fameuse éducation sexuelle, affective et relationnelle, puisque au moment où les capacités de transmettre les connaissances dures, si j'ose dire, hein, les maths, la physique, le français, etc., s'effondrent, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, ça s'effondre, eh bien l'État fait de la surenchère pour transmettre, en fait, un certain art de vivre, un certain rapport au corps, un certain rapport aux adultes, un certain rapport à des questions comme la sexualité, l'orientation sexuelle, mais aussi d'autres sujets comme le réchauffement climatique, l'immigration, enfin, toutes sortes de sujets comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le cœur de préoccupation de l'État s'est déplacé, et au lieu de se préoccuper avant tout d'instruction, il se préoccupe avant tout d'éducation, et même, comment dire, de formatage politique des esprits. Et ce glissement, je pense qu'il y a une place, par exemple, pour que l'Église catholique s'y oppose, notamment dans le cadre du contrat, parce que la loi Debré donnait des obligations à l'enseignement catholique de respect des programmes, mais dans un cœur qui était un cœur historique de connaissances classiques, j'ai envie de dire objectives, et pas dans un contexte d'expansion permanente du domaine de la lutte. Or, aujourd'hui, si vous voulez, on est toujours plus loin dans une conception qui est de plus en plus politisée et qui repose sur des bases scientifiques et intellectuelles de plus en plus fragiles. Et donc, il y a un vrai devoir de résistance, parce que c'est l'abrutissement complet du peuple auquel on est en train de contribuer en acceptant cet alignement sur les demandes d'éducation nationale. Donc, il faut quand même voir aussi une chose, c'est que l'éducation nationale a une réaction qui est bien classique. Hein. Lorsque un corps s'effondre, qui perd en attractivité, eh bien, il est plus simple pour ce corps de taper sur le concurrent, fût-il tout petit, que de se relever soi-même. Et là, c'est vraiment ce à quoi on assiste depuis grosso modo 2015. C'est-à-dire, plus l'éducation nationale s'enfonce, et plus elle fait porter la responsabilité de ses misères sur l'enseignement libre, et en particulier l'enseignement hors contrat. Ce qui veut dire que là, par exemple, on assiste à des choses complètement grotesques. J'ai vu dans certaines propositions d'amendements portées par LFI et ses alliés socialistes, l'idée que les écoles libres sont bien plus le lieu de problèmes de violence faites contre les enfants, contre les mineurs, et que donc il faut leur donner des responsabilités financières plus importantes, etc., etc. Mais c'est faux. Je suis désolée. Ils sont en train de capitaliser sur Betarame, qui remonte à des décennies, mais ils ne balayent pas devant leur porte. Il faut quand même revenir aux chiffres. Quand vous voyez le périscolaire parisien, la totalité des arrondissements sont touchés. Un tiers des écoles sont touchées. Quand vous allez dans le 11e, c'est deux tiers des écoles qui sont touchées. Et vous avez des clusters qui touchent jusqu'à 11 personnes, 11 animateurs dans une même école. Donc, si vous voulez, non seulement on a un problème, mais on a à l'évidence un système pédocriminel qui est en place. Donc, on peut toujours dire, écoutez, c'est horrible parce qu'il y a eu Betarame. Évidemment, c'est horrible. Évidemment, ça correspond à une époque où on considérait que pour faire des vrais hommes, il fallait leur taper dessus et les pousser à des extrémités pas possibles. Bon, heureusement, on a changé quand même de vision des choses et des Betarames actuellement, je pense qu'il n'y en a pas. Par contre, la loi de l'Omerta, elle régit toutes les institutions, l'Église d'ailleurs, comme l'État, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a encore des petits scouts qui sont violés, des petits enfants qui sont violés dans des écoles publiques, des petits enfants qui sont abusés dans du périscolaire, public, privé. Parce que, pardon, hein, ça ne va pas plaire à une partie des gens qui nous écoutent, mais parce que il est d'un fait clair et net, c'est que partout où il y a des êtres fragiles, à commencer par des enfants, mais c'est aussi des vieilles personnes, c'est aussi des enfants handicapés, des personnes handicapées, eh bien, il y a des salopards qui sont là pour en abuser. Et ça, on le sait depuis que le monde est monde. Et donc, il faut organiser une vision qui n'est pas rousseauiste, qui n'est pas optimiste de la nature humaine. On sait que ça fonctionne comme ça. Et c'est vraiment important que chacun prenne sa part du fardeau et que surtout, personne ne se dise « ça n'arrive pas chez moi ». C'est pour ça que parfois, je suis en colère, parce que vous voyez, au sein de Créer son école, l'association dont je m'occupe pour aider les écoles libres à être les meilleures possibles, eh bien, par exemple, nous proposons des formations sur la protection des mineurs qui sont délivrées par des chefs d'établissement de l'enseignement privé sous contrat qui sont excellents, mais aussi des formations sur le harcèlement qui sont délivrées par des associations qui sont en pointe et qui sont excellentes, qu'on connaît très bien, dont on est absolument sûr. Eh bien, la plupart des établissements disent « mais non, ça ne nous concerne pas. Il n'y a pas de violence chez nous, il n'y a pas de harcèlement chez nous. » Et voyez, c'est une naïveté qui est vraiment désarmante. Ce n'est pas vrai. En réalité, c'est vraiment dans la nature humaine qu'il y ait une minorité de gens qui sont malfaisants. Et donc, il faut s'organiser. Il faut s'organiser pour le voir, pour regarder les choses en face, pour agir, même si ça fait du mal à l'institution, même si ça fait des vagues, même si c'est déplaisant de voir que, bah oui, chez les catholiques aussi, il y a des tordus. Bah oui, chez les catholiques aussi, il y a des tordus. Parce que si on avait été épargné par le péché, on s'en serait rendu compte.
Voilà, alors les catholiques s'en sont rendus compte, puisque voilà, il y a eu la SIAZ, on attend que l'éducation nationale s'en rende compte aussi. Merci beaucoup Anne Coffinier, et à très bientôt sur Radio Courtoisie.
Ligne droite.
Et bonjour Pascal Pointu.
Bonjour Richard.
Alors, j'ai dit tout à l'heure, vous étiez notre paysan préféré. Je sais que vous n'êtes pas paysan, je sais que... voilà. Mais vous êtes notre plus grand défenseur de la ruralité, donc merci, merci d'être là. Je crois que ce matin, vous vouliez pousser un petit coup de gueule contre certains syndicats paysans, donc sans doute pas la coordination rurale, sans doute pas la confédération paysanne.
Eh oui. Je vais vous révéler aujourd'hui ce qui s'est passé il y a 48 heures. Les jeunes agriculteurs, donc c'est la filière biberon de la FNSEA, hein, les jeunes agriculteurs se sont réunis autour de leur nouveau président, Guillaume Léger, qui vient tout juste d'être élu en fin avril 2026. Et ils ont voté. Alors là, accrochez-vous à votre siège, Richard, accrochez-vous bien, parce que là c'est je ne sais même pas trouver les mots pour le dire. Ils ont voté une motion pour l'inscription de l'Ukraine dans l'Union européenne. Donc ils ont fait rentrer le loup, l'ours, tous les nuisibles dans le poulailler, et eux estiment que l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne sera favorable à l'agriculteur français. Donc là, les bras m'en tombent, le ciel aussi, et quand on voit la production de l'Ukraine, qui est par exemple première exportateur mondial d'huile de tournesol, le troisième pour l'orge, le quatrième pour le maïs, le cinquième pour le blé, ça représente 11,5 milliards d'euros d'exportation de céréales, quand la France, elle, en a exporté en tout et pour tout, sans être en guerre et en étant apaisée, pour 6 milliards, donc 50% de moins. Donc on se retrouve avec des syndicalistes paysans qui sont là notamment pour défendre les agriculteurs et qui vous disent que l'Ukraine, c'est un plus dans l'Union européenne. Va falloir qu'on m'explique le cheminement philosophique de leur motion, parce que moi, ce que je vois là, c'est ni plus ni moins la porte ouverte pour porter le cercueil de l'agriculture française en terre. Et donc là, je suis... au début, j'ai cru à un fake. Et ensuite, j'ai vu la vidéo de ce rassemblement des jeunes agriculteurs et que leur président a expliqué face à Jean-Philippe Tanguy, Jean-Philippe Tanguy qui est député RN, qui leur a dit exactement la même chose que moi, qu'ils étaient fous, qu'ils marchaient sur la tête, qu'ils étaient en train de tuer notre agriculture, parce que là, je ne vois pas à qui ça peut favoriser, si ce n'est la holding Avril, qui est basée sur un paradis fiscal et qui dont le président du conseil d'administration n'est autre que M. Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. Et nous savons bien que la holding Avril, par exemple, achète des usines de poulet au Brésil pour faire venir du poulet brésilien sur les tables françaises. Et là donc, on va se retrouver très certainement avec les mêmes accords commerciaux avec cette holding-là, et nous savons très bien que la filière avicole, qui est déjà en concurrence étroite avec les pays de l'Est, notamment la Pologne, va se retrouver écrasée. Le consommateur va se retrouver avec des produits immangeables, avec des produits du poulet ukrainien lavé à la Javel, avec une concurrence déloyale, alors que ces mêmes jeunes agriculteurs font des barrages sur les routes et vous expliquent que les accords de libre-échange sont une tuerie pour le monde agricole. Donc moi, je voudrais savoir aujourd'hui où veut aller le syndicalisme de la FNSEA dans la défense des jeunes agriculteurs. Je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais que l'on puisse dire aujourd'hui que l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne est bienfaiteur pour l'agriculture française. Alors voilà mon coup de gueule. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui qui en fait la révélation. Je tenais à vous le faire à l'antenne et je ne comprendrai toujours pas pourquoi on en arrive à avoir de tels comportements alors que des petits agriculteurs crèvent la bouche ouverte, que des gens se disent consternés par la situation de l'agriculture, que nous perdons chaque année des milliers d'exploitations agricoles. Et là maintenant, le syndicat majoritaire, la FNSEA, vient vous dire qu'il faut laisser rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Donc j'ai compris avec M. Jimmy Desserlé, qui était l'ancien président des jeunes agriculteurs il y a quelques années, lorsqu'il a été approché par Macron pour devenir eurodéputé, il avait déjà trahi son propre camp. Il continue aujourd'hui avec la voix de leur nouveau président Guillaume Léger, qui est d'ailleurs savoyard, qui est de la région Haut-Rhin. Et je ne comprendrai toujours pas ce mécanisme, si ce n'est pour faire un peu plus de capitalisme avec la filière de Avril, avec la holding Avril. Et je ne vois pas du tout l'intérêt pour nos paysans d'être confrontés à l'Ukraine.
Vous avez évidemment parfaitement raison, Pascal, et voilà, c'est une trahison de la part des jeunes agriculteurs, c'est évident, et voilà, on voit bien que ces syndicats agricoles servent de relais à l'agro-industrie. Merci pour ce coup de gueule, et à la semaine prochaine.
Merci, bonne journée.